Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir.
Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds.
Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
On m'a plusieurs fois demandé pourquoi j'aimais les comics. Mais il y a quelque chose qu'on m'a aussi très souvent demandé, c'est mais qu'est-ce que tu trouves au nanar ? Pourquoi tu regardes ces films ? Pourquoi tu t'infliges ces horreurs ? Faut vraiment être maso. Et bien en fait, je pense que les gens ne savent pas ce qu'est un nanar. Alors pour eux, il y a la partie visible, celle qui fait encore maintenant les beaux jours des fonds de catalogue de certaines chaînes comme RTL9, où on pense à Action et à toutes ces chaînes de la TNT qui doivent un peu meubler leur programme, même si personne ne regarde. On y trouve forcément, parmi les nanars les plus connus, ceux qui mettent en scène des héros virils, tout en muscles, en belle valeur et en moustache bien taillée, comme évidemment l'éternel Chuck Norris, qui dans les années 80 est reparti au Vietnam gagner cette foutue guerre au moins 4 ou 5 fois. Hein. Je pense qu'il a bien vengé et revengé les États-Unis. Et puis, évidemment, on a Charles Bronson qui a terminé sa carrière à la Canon, où il est reparti dans le ghetto buter les dealers qui ont tué, retué et re-retué sa femme et sa fille. Au bout de 2-3 films, on avait un peu perdu le compte. Hein. Voilà, on a ces héros mythiques qui faisaient régner l'ordre, la justice et l'idéal américain à coups de magnum. Et puis, à côté de ça, on a d'autres types de nanars bien connus. Hein. Ceux qui mettent en scène des adolescents qui sont punis pour avoir laissé un peu trop libre cours à leurs hormones. Ils sont massacrés alors soit par des tueurs masqués grossièrement, qui se sont équipés en dévalisant tout le rayon bricolage de Castorama, ou, plus classique, les odieux martiens en mousse, qui sont arrivés dans des soucoupes volantes pour nous envahir. Et parfois, c'était vraiment des soucoupes qu'on a tenté de faire voler. Et puis à côté de ça, le nanar est encore plus divers. Hein. Il y a des comédies pas assez musicales, ou au contraire parfois un peu trop musicales, des dessins très mal animés, des aventures spatiales un peu spéciales. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Mais ces nanars connus, c'est un peu le cadre d'une porte entrouverte que les courageux pionniers, ou pionniers tarés, on ne sait pas trop, de Nanarland ont gracieusement ouverte, à grands coups de pied retournés qu'ils ont osé mettre là où ils veulent, et surtout dans la gueule béante de monstruosités cinématographiques insoupçonnées venues des quatre coins du globe. Parce que oui, grâce à eux, nous sommes des milliers, allez soyons fous, des millions, à avoir voyagé aux Philippines pour voir des héros américains dans des pyjamas bariolés de ninja affronter des figurants censés représenter de Chinois qui pratiquent à peu près des arts martiaux japonais. Ou aussi en Inde, où je me souviens avec émotion de ce flic qui, entre deux pas de danse, enfourchait son cheval avec lequel il pouvait faire des dérapages sous des camions pour aller tataner la gueule de méchants truands tout aussi moustachus que lui. La moustache, ça revient souvent. On a aussi des voyages au Mexique avec leurs héros costumés, leurs catcheurs, tout en masque, cap et slip, qui n'hésitaient pas à aller défendre la veuve et l'orphelin en tabassant les truands de la rue, ou pourquoi pas de temps en temps en remontant le temps pour aller frapper Frankenstein ou Dracula. Pourquoi pas, hein. Et puis bien sûr, on a la Turquie. Ah là là, la Turquie. Entre leur non-respect de la notion du copyright ou de films qu'on est allé tourner là-bas. Je me souviens avec émotion de cette superbe aventure où un homme amoureux du sosie de sa sœur essayait de récupérer un diamant de 1000 carats, poursuivi par un flic moustachu qui était bien du coin, mais quand même incarné par une icône de la blaxploitation et qui n'aimait pas les étrangers. Et puis bon, on a aussi pu voyager en Europe, notamment en Italie, avec des faux Mad Max, des faux Conan le Barbare, des faux Star Wars. Il y a même des faux western spaghetti faits par des Italiens, pour vous dire le niveau, quoi. Et puis à côté de ça, grâce à Nanarland, on a découvert qu'en France, eh ben, on n'avait rien à leur envier. Hein. Ici aussi, les dangers en carton pâte ne manquent pas. On a pu voir des zombies qui ont bu trop de vinasse, des cannibales du dimanche filmés dans l'exotisme du bois de Vincennes, un cheval satanique tellement mystérieux qu'on n'a toujours pas compris ce qu'il faisait dans ce film, où on avait aussi un tueur masqué qui pousse des grognements et qui dort dans une tente au fond d'un jardin qu'on tente de faire passer pour une forêt. Ou récemment, on a pu voir des hordes de ninjas qui harcelaient un faux Bruce Lee dans le métro à Rome ou dans les rues parisiennes D'ailleurs, quand c'était dans le métro, on a pu remarquer que l'autorisation de tournage semblait un peu relative. Et puis, bien sûr, on a cette troupe de revenants nazis qui émergeait d'une piscine grimée à l'arrache en marécage. Enfin, voilà, on a tous ces exemples-là qui montrent que dans l'Hexagone, on n'a aucune leçon à recevoir lorsqu'il s'agit de copier, sans trop de talent, mais avec notre débrouillardise légendaire, tout ce qui marche à l'international. Voilà, en fait, les nanars, c'est tous ces lieux, ces personnages, ces situations inénarrables qui pourraient juste donner des métrages bien trop longs, même lorsqu'ils font à peine 1h20, mais qui vont tout de même trouver grâce à nos yeux par ces petits quelque chose. Un jeune comédien qui n'a pas compris qu'il n'était pas dans Citizen Kane ou que son film ne serait pas vu au-delà de quelques spectateurs qui ont vidé tout leur vidéoclub et qui n'ont plus rien d'autre à se mettre sous la dent. Des courses-poursuites de voitures majorettes qu'on nous fait passer pour des cascades dignes de Fast and Furious. Des répliques tellement mémorables qu'elles restent éternellement gravées dans notre esprit, surtout parce qu'on essaie de comprendre ce qu'il voulait dire. Notamment lorsque on a des comédiens de doublage qui ont décidé de pimenter un peu le jeu. Ou alors qui ont parfois juste décidé d'avoir rien à foutre et de faire à peu près ce qu'on leur a dit, mais plus un peu que près. Bref, tous ces petits éléments qui rendent des mauvais films sympathiques, c'est ça ce qui fait le sel des nanars. C'est ça ce qui fait qu'on aime ça. Et que l'équipe de Nanarland, depuis presque 20 ans maintenant, nous fait découvrir ces pépites insoupçonnables, insoupçonnées, avec un soupçon de « on n'est pas sûr qu'on aurait forcément voulu voir ça ». Mais une fois qu'on l'a vu, on en ressort avec les yeux pleins d'étoiles. Alors, pas forcément les étoiles d'Hollywood, hein, mais parfois c'est plutôt des trous noirs, mais on a l'impression d'avoir vécu quelque chose quand on regarde ensemble des nanars. C'est ça ce qui s'est passé à la nuit Nanarland, où nous étions rassemblés, moi, les invités de l'émission de ce soir, et de nombreuses personnes. Bref, mes amis, maintenant, comme on dit chez les initiés de Nanarland, promis ou l'un, finissons-en avec cette émission qui paraît déjà trop longue après cette intro. Et donc, ce soir, moi, Marty, je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de deux invités. Alors, deux invités qui ne sont pas tout à fait inconnus si vous êtes des habitués de Comics Office. En effet, nous retrouvons Bernie. Bonsoir, Bernie.
Bonsoir à tous.
Alors, ça va bien, Bernie?
Ça va, et toi?
Très bien, très bien. Alors donc, Bernie, hein, tu étais déjà intervenu le temps d'un de nos podcasts réguliers.
Le temps d'une intro un peu catastrophique. C'était un peu dans l'urgence que vous m'aviez invité pour parler du Roubaix Comics Festival dont je suis membre, en fait. Enfin, je suis membre de l'association qui organise le festival. Du coup, j'avais fait une intro, je sais plus c'était laquelle, c'était en janvier.
Oui, comme janvier ou février. Oui, t'étais venu un peu à l'arrache, mais comme un nanar, tu vois. Genre, hey, tu veux pas venir vite faire, allez, viens, on te ferme. C'était un peu l'idée.
C'est ouais. Ça, ouais. Je...
À côté de toi, mais de l'autre côté de la France, en fait. Nous avons un autre invité qu'on n'a jamais entendu sur les ondes, mais qui, au tout début de Comics Office, nous avait filé un coup de main, nous avait signé 2-3 articles pour étoffer un peu le site qu'on l'a lancé. C'est mon très cher ami Ben Wave.
Bonsoir.
Salut Ben, comment tu vas?
Très bien, et vous?
Je peux me tutoyer, hein, parce que Bernie, on s'en fout. Hein.
Et oui, c'est la première fois qu'on m'entend, en effet. Mais j'avais un peu rôdé sur Comics Office au début.
Oui, en effet. Oui. Et puis, tu as rôdé sur plein d'autres endroits. Je vous laisserai le temps à la fin de vous présenter plus en détail. Donc, tiens, bah, Ben, alors, il y a une question que je me pose depuis, ça fait ça fait quand même 15 ans qu'on se connaît maintenant. C'est Ben Wave ou Ben Wave
Initialement, ça aurait dû être Ben Wave.
C'est Ben MP3, en fait.
Initialement, ça aurait dû être Ben Wave, comme la vague en anglais. Mais malheureusement, j'avais mal lu l'écriture, l'orthographe de Wave. En fait, à la base, c'est issu en fait de The Omega Wave dans la marque jaune de Blake et Mortimer, qui est en fait l'énergie, il me semble, qui nous donne des pouvoirs à Ulrich, le méchant qui à ce moment-là est un peu un super vilain. Et du coup, j'avais mal lu Wave. Du coup, je l'ai mal orthographié et puis c'est resté depuis 15 ans, en effet, maintenant 15 ans que j'ai choisi ce pseudo.
Eh ben merci, parce qu'après Bernie, toi aussi, tu nous offres une présentation un peu nanarde.
Mais complètement. Complètement, c'est complètement foiré et n'importe quoi. Et chaque fois que je rencontre des gens, tout le monde fout de ma gueule, parce qu'en général, c'est Ben Wave, ou ce genre de choses.
Certains, Ben Wawa.
Voilà, c'est ça. Moi, j'ai décidé d'assumer, tu vois. J'ai décidé d'aller de l'avant, de prendre les choses.
Très présidentiel, toi, tu assumes.
Voilà, complètement. Moi, j'assume, je vais à Nanarland. J'avais choisi le rouge dans le combat des ninjas, ce genre de choses, quoi.
Je crois que moi aussi, j'avais pas misé sur le bon poulain.
Ben sachant qu'en fait, alors pour les auditeurs, en fait, on avait choisi le rouge alors que c'était un combat entre un ninja jaune et un ninja violet, tu vois. C'était cette idée.
On reviendra sur ça, il y a un délire d'ailleurs sur le rouge qu'on va tenter d'élucider mais qu'on n'élucidera pas, je pense. Alors, c'est ce truc de, ils sont gourés, ils ont mal orthographié et tout. Alors, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais ça revient souvent. Il me semble que Google, d'ailleurs, s'appelle Google parce qu'ils se sont trompés, ils devaient donner un autre nom. Enfin, c'est quelque chose qui arrive de temps à autre.
Il devait s'appeler Yahoo à la base, en fait.
Mais... exactement, ouais. Bon, allez, on va arrêter là avec les explications foireuses et on va attaquer quelque chose de peut-être moins foireux, quoique. Cette fameuse Nuit Nanarland.
Ouais, oh, Misola, finissons-en.
Donc, nous étions à la quatrième Nuit Nanarland, qui en fait, je crois que c'est leur 15e, parce qu'avant, ça s'appelait la Nuit Excentrique et ça se passait à la Cinémathèque.
C'est ça, ouais. À la Cinémathèque française, ouais.
Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, Nanarland s'est greffé après la création de la Nuit Excentrique. C'est-à-dire qu'il y a eu la Nuit Excentrique, qui d'ailleurs a une antenne locale au Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg, qui a aussi une Nuit Excentrique. Mais en fait, initialement, la Nuit Excentrique était dans son coin, et Nanarland s'est après greffé dessus, je pense.
J'ai assisté à une Nuit Excentrique il y a à peu près une dizaine d'années, en fait. Moi, il me semblait que c'était Nanarland. Enfin, en tout cas, c'est Nanarland qui l'avait organisé à l'époque. Mais après, t'as peut-être raison, c'était... Enfin, comment dire, c'était peut-être une spéciale Nanarland, en fait, une Nuit Excentrique spéciale Nanarland, c'est possible.
Non, en fait, si je dis pas de bêtises, et là je vois le programme des différentes Nuits Excentriques, c'est effectivement que Nanarland, ça a continué. Par contre, ça s'appelle maintenant Nuit Nanarland, parce que comme ils ne font plus ça conjointement avec la Cinémathèque, pour des raisons de droit, ils n'ont plus le droit de s'appeler Nuit Excentrique. D'ailleurs, c'était marrant parce que...
Possible aussi.
Plusieurs fois, là, j'ai écouté notamment leur podcast de débrief qu'ils ont fait directement le dimanche. Et ils n'arrêtent pas de dire Nuit Excentrique. Eux-mêmes n'ont pas l'habitude encore de dire Nuit Nanarland. Donc oui, toi, tu avais déjà vu une Nuit Excentrique. Tu avais déjà vu pas mal de nanars avant ou pas? C'est un genre que tu aimes bien?
Moi, c'est... En fait, c'est depuis que je suis gamin que je connais les nanars. Parce que,
depuis que t'es gamin, t'as mauvais goût, c'est ça?
Il y a un peu de ça, mais en fait, on a 10 ans de différence avec mon frère, et quand il a écrit son mémoire, il a fait ça sur les nanars français, en fait.
Oh, c'est énorme.
Et du coup, c'est lui qui m'a un peu instruit à tout ça. Et je suis en train de voir que j'ai fait la Nuit Excentrique 5 en 2009, du coup.
Ah, c'est, avec la fiancée de la jungle, bon, je connais pas, Dracula vampire sexuel, qui sera à une prochaine Nuit Excentrique, c'est quoi, c'est la Nuit Vampire Excentrique, quelque chose comme ça.
Mais en fait, le pire souvenir, c'était Yor, le chasseur du futur, hein, pour moi, là, c'était vraiment le pire.
C'est un classique. En fait, quand on regarde les Nuits Nanarland, il y a toujours un ou deux de leurs films un peu classiques, de leurs premiers émois, qui reviennent souvent dans la référence.
On va dire un nanar un peu plus connu, on va dire.
Et je vois qu'à chaque fois, à peu près à chaque fois, il y a un film de ninja. Alors, film de ninja entre guillemets ou de karaté entre guillemets, même si des fois ils font du kung-fu ou des fois ils font des choses.
Ben, ça finit toujours sur un film de bagarre.
Voilà,
film
de bagarre.
Il y a toujours de la bagarre.
Voilà, et là, c'était Ninja in the USA.
Qui était pas mal en plus. Voilà, j'en garde un bon souvenir aussi. Mieux que celui qu'on a eu cette année.
Oh là là, oulala, attention, il va y avoir de la bagarre. Donc,
il va y avoir débat.
Bah, sans plus attendre, nous passons au programme. Donc, à cette Nuit Nanarland, on a eu 4 films. Autant dire que le premier film, c'était une expérience. Je me rappelle, Bernie, je me suis retourné vers toi. Alors, juste pour situer, donc, j'y suis allé. À la base, j'avais pris ma place seule. Puis Bernie, on discutait, tu m'as dit, je vais avec des potes. Je me suis greffé à votre groupe. J'ai appris de côté que Ben y allait avec un ami à lui que je connais aussi, parce que Ben et toi, vous ne connaissiez pas. Donc, on s'est un peu tous retrouvés et puis on était assis un peu dans la même zone. Et moi, j'étais à côté de toi, Bernie. Et je me rappelle qu'à la fin du premier film, je me suis retourné, je t'ai dit « Ah, c'est audacieux de commencer par ça !» Et visiblement, les mecs de Nanarland, beaucoup de gens à leur dédicace leur ont dit que c'était audacieux. Car ce premier film, c'était quelque chose qu'ils ont comparé à la rencontre de Tree of Life de Terrence Malick et des films Marvel. C'est un film... Alors, c'est un film qui s'appelle Twisted Pair. Oui, alors je ressors mon... Les habitués du podcast connaissent mon grand accent.
Le bon accent.
Oui, non, mais
j'ai le même que le tien, t'inquiète pas.
Ouais, donc de Neil Breen. Et alors, c'est une exclusivité. C'est un film de 2018. Donc vraiment, il est encore jamais sorti au ciné en France. En fait, je crois qu'il n'est jamais sorti au ciné nulle part. Hein.
J'ai envie de dire heureusement, peut-être, non
c'est... Ouais, une exclusivité, et puis c'était un film assez conceptuel qui interroge. D'ailleurs, visiblement, la personne qui s'est chargée de créer les sous-titres français était vraiment au seuil de l'antre de la folie. Hein. Il a basculé dans un film de Carpenter, et je pense qu'il aurait préféré vivre dans un film de Carpenter plutôt que de faire ce sous-titre, parce que je vais vous laisser... Alors, juste, je vais un peu poser le contexte. Il brille. C'est son 4e ou 5e film. Alors, visiblement, c'est son masterpiece. Déjà, c'est son film le plus compréhensible. Et c'est aussi son film somme. On y retrouve un peu toutes ses obsessions. Ça fait 4 films, ouais, 5e. Donc, ça fait 4 films qu'il a eu le temps de travailler un peu ses idées, qu'il a laissé maturer tout ça. Là, c'est vraiment le maxi best-of et qu'il a présenté au monde. Et donc, Neil Breen, c'est quelqu'un, c'est un passionné. Hein. C'est un vrai passionné. Il fait toute sa poche. Dans la vie, il est agent immobilier.
Et architecte.
Et architecte, d'accord. Ouais. Ben, ça se voit pas trop dans ses choix de décor. Hein. Mais il doit pas avoir autant de contact que ça dans le milieu.
Ouais, tout est sur fond vert, donc c'est...
Non, il y a une barrière. Il y a une barrière jaune.
Il y a quand même aussi une université qui est remerciée dans les crédits à la fin.
Oui, mais on sait très bien qu'ils ont tourné ça, qu'ils ont discretos.
C'est eux qui lui ont prêté les fonds verts, justement. C'est l'université qui lui a prêté les fonds verts.
Je suis sûr qu'il a filmé sans autorisation. C'est pour ça qu'il n'y a aucune lumière dans le film.
On va quand même préciser qu'il est à la réalisation, au scénario, montage et à la musique. Et en plus, il est acteur dans le film.
Oui, et il y a de nombreuses personnes qui... Alors, moi, ça m'intriguait... Dans les nanars, il faut regarder les génériques parce qu'ils trouvent toujours des choses formidables et on se rend compte que c'est un peu les mêmes personnes qui font tout, ou alors il y a des pseudonymes grossiers. Et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages, enfin de personnes dans le générique qui avaient des N et des B dans leur nom. Et donc, à la fin, il y a un petit disclaimer qui dit que, voilà, qui nous fait comprendre qu'en fait, les persos avec beaucoup de B et de N dans leur nom sont des acronymes, j'allais dire, sont des pseudonymes, quoi. En fait, Gilbrin fait tout. Dans ce film. Dites-moi, vous avez pensé quoi de ce film? Qu'est-ce que vous en avez compris? Enfin, qui veut commencer? Vous battez pas, je sais que vous n'avez pas très envie d'en parler. Vous battez pas, mais. Tiens, Bernie, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film?
Je dois être honnête ou pas, du coup?
Oui, je fais exprès de commencer.
On va dire que j'étais très fatigué. J'ai dormi pendant les trois quarts du film. C'est assez compliqué d'en parler.
T'as pris le bus depuis Lille, enfin t'as fait un long voyage, c'était fatigant.
Non, mais en vrai j'étais vraiment crevé, mais j'ai préféré dormir sur le premier film et assister aux projections entières des suivants, quoi. Pour le coup, après les suivants, j'ai bien suivi.
En même temps, il a invité à la sieste quand même ce film. Et alors donc, Ben, veux-tu toi nous parler de ce chef-d'œuvre?
C'est le pire film de ma vie.
Et pourtant, tu as vu The Room le matin même.
J'ai vu The Room, j'ai vu Turkish Star Wars, j'ai vu Catwoman, j'ai vu des films horribles, mais j'ai fait partie des gens qui hurlaient 20 minutes avant la fin pour demander que ça cesse, en fait. Je demandais le générique, mais il ne venait pas. 5 fois, j'ai cru que le film se terminait, mais non, en fait. Pour avoir vu Le Nouveau Monde de Terrence Malick, je pensais que j'attendais.
C'était un film d'action.
Non mais Twisted Pair, c'est fou en fait. C'est fou. Moi, je me souviens qu'au début de la présentation de Nanarland, il disait l'an dernier, on a diffusé un film où il y avait l'exorcisme d'une borne d'arcade de jeux vidéo. On nous a dit que c'était trop mainstream. On vous a pris au mot. Mais oui. Mais enfin, vous avez été trop loin en fait. Il y a pas d'après en fait. Je pense que c'est pas possible. Neil Breen est fou, mais il est bizarre en fait. C'est un film bizarre et il a pas de sens et on comprend rien et il y a du blabla incompréhensible. Et puis, je veux dire, à un moment pour voler, il se bouge numériquement sur un fond vert quand même. C'est dégueulasse quoi.
C'est à peu près son seul super pouvoir d'ailleurs.
Non mais oui, on sait pas ce qui se passe. Il y a un mec super bizarre avec des diamants en toc. Il y a quand même ce moment, mais vraiment extrêmement plein de malaise, où on sait toujours pas si en fait au final il a un jeu sexuel bizarre avec sa copine ou en fait il l'a lobotomisé. On comprend rien, c'est monté avec les pieds. Il y a à peu près 7 acteurs en tout. Tu vois, on sait pas.
Faut dire qu'il joue la moitié des rôles, hein, donc c'est...
Bah oui, il joue deux rôles. Et surtout, il n'y a aucun second degré. Tout est très premier degré. Neil Breen, il est 100% premier degré. Et il a un espèce de complexe du Messie. Il paraît que c'est comme ça dans tous ses films. Et en plus, là, pour la première fois, il annonce une suite. Il dit à la fin que son perso va revenir. Et en même temps, visiblement, on n'a pas vu le film précédent. Il y a une espèce de fée qui apparaît par moment. Il paraît que c'est un perso du film qu'il avait sorti quelques années plus tôt. On n'avait pas les clés. Hein.
Bah, il a un peu son Marvel Cinematic Universe à lui, quoi. C'est...
En fait, ce qui est terrible, c'est que il y a des éléments qu'on capte. Donc, en gros, si vraiment on résume l'intrigue, alors en fait, les scènes s'enchaînent mal. Il manque des choses. Enfin, on comprend rien. Mais en gros, on nous explique au début que c'est des jumeaux qui ont été enlevés par une force mystérieuse. Et on a un masque de mauvais aliens qui apparaît par moment. Donc, des aliens ont kidnappé 2 jeunes gens pour leur donner des pouvoirs et les ont renvoyés sur Terre pour apporter la paix, l'amour et des coups de pied dans la gueule des méchants. Et l'un des deux faisait mal son boulot. Il lui retire ses pouvoirs. Il disparaît pendant des années, son frère le retrouve, il a pété des plombs, il a une barbe, donc il est méchant, et lui maintenant il torture.
Comme dans tous les films où il y a un jumeau maléfique, il y a forcément un bouc, le jumeau maléfique.
On pense qu'il est maléfique, mais on se rend compte qu'il est juste perturbé et qu'il rend la justice à sa façon. D'ailleurs, il kidnappe un trio de personnes qui sont quand même coupables de détournement de fonds, d'esclavagisme, de kidnapping, de meurtre. Il y a quoi encore? Ils ont fait effondrer la bourse, enfin, c'est énorme. Les mecs nous débinent ça, full premier degré. Mais vraiment, premier degré, il nous débine tout ça, quoi. C'est énorme. Et en fait, c'est vraiment une intrigue de comics, parce que donc, il y a ce jumeau maléfique qui n'est pas tellement, qui est juste perturbé. Il y a Crux, le méchant, avec ses diamants, là, qui veut conquérir le monde et qui veut utiliser, alors on ne sait pas trop, à la fois Internet et des produits chimiques. Et en fait, c'est vraiment une intrigue de comic books. C'est pour ça que ça a totalement sens qu'on fasse un Comics Office Watching sur la nuit nanarlande, parce qu'on a là un film comics mal branlé, en fait. C'est très générique, c'est vraiment une intrigue de comic book ou de film de mauvais SF basique, quoi. Sauf que c'est incompréhensible, il n'y a pas de raccord, il n'y a pas de budget. Comme vous le dites, il y a peu de décors. Il y a la fameuse scène où il emmène sa copine au restaurant. Vous ne voyez pas mes doigts, mais je fais plein de guillemets. En gros, ils sont sur une terrasse vide, c'est la nuit. Donc en gros, ils sont allés sur une terrasse quand le resto était fermé, mais par contre, les tables sont restées dehors. Quand même, Neil Breen, c'est pas la moitié d'un idiot, hein. Il justifie ça dans le scénario. C'est bien la seule fois qu'il justifie quelque chose en disant « j'ai privatisé le restaurant pour toi ». Sauf qu'on ne voit jamais l'ombre d'un serveur, hein, finalement. Et il y a cette fameuse université où on lui a permis de tourner des scènes. Alors, il tourne en boucle dans les deux mêmes couloirs. Hein. C'est proprement hallucinant, quoi.
Non, mais c'est abominable. Hein. C'est complètement abominable. Hein. C'est complètement premier degré, comme tu dis. Ça n'a absolument pas d'argent. Alors, ça, c'est pas un critère, mais ça se rajoute.
Ça n'a pas de talent, surtout.
Non, mais ça n'a pas de talent. Ça n'a pas de talent d'acteur. Ça n'a pas de talent de réalisation. C'est rempli de tunnels de dialogue incompréhensibles. Quand Marty parlait avant de têtes d'aliens bizarres, il faut imaginer en fait que c'était les vidéos que vous aviez sur des CD-ROM en 98, hein. C'est pas plus que ça. C'est complètement dégueulasse.
Il date de l'année dernière, hein. Il date de 2018.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est complètement sans budget. C'est rempli de moments, mais on comprend pas. C'est mal joué. Enfin, je veux dire, voilà, c'est complètement fou et ça dure une heure et demie. T'as l'impression de perdre ta vie entière devant. C'est horrible.
Par contre, il y a quelque chose qu'il maîtrise, c'est l'utilisation de stock shots, donc d'images qu'on peut acheter pour insérer dans son film, sur lesquelles il s'incruste. On le voit par exemple aux côtés de G.I., on ne sait pas trop ce qu'il vient faire là, surtout que l'immeuble pète à la fin et qu'il a sauvé aucun G.I. Et il y a cet aigle, ce majestueux aigle qui se pose, auquel il fait un câlin.
Et pour préciser, des stock shots, t'en as beaucoup des gratuits en fait, hein. T'es pas obligé de payer. Hein. Donc...
Non mais après il est malin. Enfin, dans le sens où il a réussi à choper des bandes d'images d'un type encapuchonné dans un immeuble abandonné. On le voit à peu près 3-4 fois. Et du coup, il l'utilise parce que le frère jumeau maléfique, il capuche. Et voilà. Donc, ça reste un type malin. Comme disait Marty avant, le côté « j'ai privatisé le resto parce qu'en fait, j'ai récupéré un endroit ». Je veux dire, la terrasse où il y a le resto, on voit, il y a 4 autres scènes avec la même terrasse en fait, hein, à différents. Il est malin.
Et par moments, il filme juste la rambarde en faisant croire que c'est un pont où il y a un clodo dessus.
Oui, voilà, c'est ça.
Il est malin. Non, mais il est malin, sauf que ça se voit. Si à la limite, c'était un peu second degré, ça passerait, mais là, ils n'auraient pas dû mettre ça en premier, clairement. Ça aurait dû être en troisième ou en dernier.
Comme je disais à ceux qui étaient juste à côté de moi, ils nous ont mis à terre tout de suite, quoi. À genoux, quoi. C'était tu Twisted Pair en premier, ça te met à genoux. En fait, tu peux pas. Tu t'en remets, mais c'est quand même très violent, quand même. Hein.
Oui. Si vous n'êtes pas un nanardeur aguerri, c'est compliqué. Hein.
Ah non.
Alors, on parlera plus tard, hein, des différents cuts et bandes annonces qu'il y avait entre, parce qu'on avait quand même des petites vidéos nanardes qui nous servaient d'amuse-bouche et qui étaient franchement généralement les meilleurs moments.
Honnêtement, c'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère dans les nuits excentriques, nuits nanarlandes. C'est vraiment tous les extraits, et tous les bandes annonces qui nous diffusent entre chaque film. En fait, c'est vraiment ce qui est le plus plaisant. Pour
ouais.
Moi.
On vous en parlera tout à l'heure. Hein. On vous dira celles qui nous ont le plus marqué. Heureusement qu'il y avait ça avant et après pour nous permettre de respirer. Et on a eu le second film.
Vous êtes des espions nordistes.
Quoi ? Qu'est-ce que tu connais des espions ?
Notre professeur nous a dit de ne jamais aider les espions du Nord.
Fais attention à ce que tu dis !
Ok. C'est vrai, nous sommes du Nord, mais nous sommes très gentils.
Vous êtes des menteurs. Notre professeur nous a dit que vous étiez mauvais.
Ces enfants ne sont que des petits contre-révolutionnaires.
Voyons, petit. Ce que votre professeur vous a dit n'est pas vrai. Nous sommes des gens paisibles.
C'est pas vrai, vous mentez. Nous connaissons des communistes et ils sont tous cruels. De plus, ils mentent tout le temps, alors.
C'est une vraie baraque de capitalistes. Je comprends pourquoi ces gosses sont contre la révolution.
Un film de mauvaise animation, de je sais pas trop comment qualifier ça. Alors, c'est un film... Oui.
C'est ça, mauvaise animation, c'est le bon terme.
C'est un film spécial, c'est un film à la croisée des genres. Alors donc, c'est un film pour enfants. Alors, c'est un dessin animé avec au début et à la fin, ou peut-être à la fin, j'ai dormi à la fin, des scènes en live action.
Si, si, à la fin, ils reviennent. Justement, ils se réveillent dans la tente à la fin. Je
Mais ça n'a strictement aucun sens non plus. Hein. C'est...
Ah non, ça n'a pas beaucoup plus de sens que le film précédent, mais c'est dans un genre différent. Quoi.
C'est peut-être pour nous expliquer que toute la partie de s'animer n'était qu'un rêve, j'en sais rien. Toujours est-il que c'est un film à la croisée des genres, car c'est un film d'animation de SF. Mais c'est aussi un film de propagande contre ces chiens de communistes de Corée du Nord.
Oui, parce que c'est un film coréen. Alors, c'est un film sud-coréen de 1985.
Hongkongais.
C'est pas sud-coréen ?
C'est Corée du Sud, Hongkong.
Oh là là.
Si, si, c'est une coproduction hongkongaise-Corée du Sud, tu vois.
En fait, il y a un souci, parce que déjà, on n'est pas sûr s'il date de 85 ou de 90. Il y a des incertitudes là-dessus. Non seulement c'est un film de propagande, mais surtout, les films de propagande, on en a connu dans plein de pays différents. C'est surtout un film d'un genre très spécial qui est le film basé sur des jouets de contrefaçon. Tu te rappelles, Bernie, on s'est dit, mon Dieu, mais le design de certains robots, ils ont copié Transformers, le méchant, ils ont copié Goldorak. Et en fait, non, ils ont copié des contrefaçons de jouets...
De contrefaçons.
Voilà, ouais. En fait, en gros, visiblement, c'est un genre très répandu en Corée du Sud de l'époque. Faut remettre un peu dans le contexte historique. Hein. La Corée du Sud, faut pas croire que c'était un pays, comme on le voit aujourd'hui, c'est une espèce de Japon bis. Non, pas du tout. Jusqu'à la fin des années 90, c'était aussi une dictature, la Corée du Sud. C'est pas pour rien que le cinéma coréen a pété un plomb il y a 15 ans, quand enfin ils ont été libres de faire ce qu'ils voulaient. Ce qui explique le côté propagandiste. Et il y avait donc cette particularité de faire des dessins... abominable, c'est très mal fait. Visiblement, il y a dans ce genre de dessin animé, on trouve aussi des chutes de dessins animés japonais qu'ils ont piqués, tout simplement. Donc il y a des morceaux de films qui ont été volés ailleurs. Et c'est des dessins animés qui s'exportaient très mal. Hein. Et c'est un peu
toujours probable.
Et c'est toujours la même chose. Là, c'était les aventuriers du système solaire. Je crois qu'il y avait les conquérants du cosmos, les guerriers de l'espace. Enfin, c'est toujours des noms avec aventuriers, guerriers, conquérants, je sais pas quoi, et toujours espace, univers, je crois qu'il y a les sauveurs de l'univers aussi, c'est toujours un peu le même schéma, quoi, et le but, c'est avant tout de faire de la propagande anticommuniste. Alors ce film, moi j'ai trouvé, le début est drôle, le début c'est n'importe quoi, avec les soldats sont cons comme des pieds, à un moment, les gamins se sauvent, ils se cachent dans une poubelle, ça n'a aucun sens, et puis la partie dessin animé par contre... où on a quand même Kim Il-sung, hein, le dictateur de l'époque.
C'est la plus drôle, oui. C'est la plus drôle, la partie dessin animé.
Oui, avec Kim Il-sung qui est de mèche avec les aliens.
Parce que en gros, pour expliquer un peu aux auditeurs, c'est que j'ai jamais vu un film avec autant de faux raccords alors que c'est un film d'animation, c'est juste abusé. Quoi. Il y a juste un faux raccord toutes les minutes, quoi, clairement.
C'est vrai.
Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de scènes d'animation où, en fait, on voit une animation et elle est répétée pendant 5 minutes à peu près. En fait, si vous voyez, il y a, par exemple, un char qui va avancer, bah, ce même char, vous allez le retrouver plusieurs fois.
Mais les types de Nanarland, en fait, ils disaient que régulièrement, en fait, on a l'impression que c'est des gifs en boucle. Des gifs ou des gifs, je sais pas comment ça se dit. C'est exactement ça, en fait. Comme disait Berdy, en fait, il y a une image, ils l'ont animée, ils se disent, bon, on va le faire pendant 30 secondes. Ouais. Allez, les mecs, voilà, c'est parti, quoi.
Et c'est ça, quand même, pendant quasiment une heure, quoi.
Oui, non, mais c'est ça. Mais le film en lui-même n'a aucun sens. Le début, ça commence sur des enfants qui vont faire une sortie scolaire, mais il y a des espions communistes. Ça, c'est des acteurs, des vrais acteurs. Après, ils s'endorment. D'un coup, ils se réveillent, mais c'est un dessin animé. Puis après,
Attends, t'as oublié les extraterrestres.
Oui, il y a des extraterrestres qui arrivent. Et ça aussi, il y a des extraterrestres qui arrivent avec un robot. Ils cherchent un autre robot, le robot Canon, qui serait aux mains d'une sorte de, je sais pas, si vous voyez Satan Petit Cœur dans Dragon Ball Z, bah, c'est à peu près la même tête. Mais voilà. Et qui s'allie à Kim Il-sung, parce que lui, il a le robot Canon. Sauf qu'après le robot Canon, bah, il s'avère que c'est trois robots. Et ça, c'est magnifique. Et ça, parce que Bernie et Marty vont le confirmer. Les trois robots Canon, quand ils sont récupérés par les gentils élèves, ils fusionnent pour faire un appareil photo Canon géant qui a un rayon de la mort.
C'est encore plus con quand on le raconte que quand on le voit, en fait.
Ah non, mais clairement. Mais en gros, il faut expliquer qu'il y a des méchants extraterrestres et des gentils extraterrestres qui aident... Enfin, les méchants extraterrestres sont avec les communistes et les gentils sont avec les Sud-Coréens qui vont les aider à les combattre.
Et alors, comme tu le disais, Bernie, oubliez toute notion de raccord et d'échelle, parce que donc les robots changent de couleur, ils changent de taille, les distances sont jamais respectées. Je crois que c'est dans ce film-là, non, où on alterne entre jour-nuit. Il y a Jacouille la Flipouille qui passe son temps à faire jour-nuit parce que d'un plan à l'autre, on n'est pas à la même heure. Il y a rien qui va. Alors, je vous avoue que je me suis endormi sur la fin. Je crois que j'ai pas loupé grand-chose parce qu'au bout d'un moment, ça devenait quand même long. Hein. C'est la caractéristique du nanar, c'est que c'est souvent trop long.
Et pourtant, tu sais que c'est le film le plus court de la soirée, en fait. Il dure environ une heure, quoi.
Ouais, enfin bon, regarder des gifs pendant une heure, c'est quand même un peu chiant, quoi.
C'est ça, en boucle.
Non, mais il faut quand même que les auditeurs sachent que quand même, sur la fin, quand les extraterrestres sont bons, t'as tous les enfants qui lèvent la main pour dire au revoir, mais l'animation marche pas. Donc c'est comme si, en fait, la main, elle bouge de 2 centimètres un peu. Voilà. Puis évidemment, toute la salle Nanarland a levé la main pour dire au revoir aussi, parce qu'on est poli.
Ce qui est bien avec la nuit Nanarland, c'est que tout le monde réagit au film à chaque fois et ensemble, quoi.
Et qu'on est relativement bien bête, quand même.
Oui.
On est un peu con. Oui.
On peut crier notre souffrance, mais on peut aussi aider les personnages. On peut leur signaler que le méchant est derrière. On peut leur signaler qu'ils ont oublié de fermer une porte. Alors, il y a un rituel qui est de gueuler rouge, et visiblement, les gens de Nanarland ne savent même plus eux-mêmes pourquoi. Quand il y a un objet ou un vêtement rouge,
en fait, c'est pour défendre un ninja rouge ou un ninja jaune, en fait. C'est pour les combats.
Non, c'était la première fois qu'ils faisaient le truc du ninja, il me semble, non ?
Ah, je sais pas, mais je me trompe peut-être, hein, je t'avoue que j'étais... Après, je pense qu'il doit y avoir des acharnés de la nuit Nanarland qui sont là depuis des années et qui assistent à toutes les nuits et doivent avoir des running gags entre eux. Pense.
Et justement, cette interaction, on l'a surtout ressentie avec ce qui pour moi était le chef-d'œuvre de la soirée, le troisième film, que j'avais déjà vu et que j'ai déjà beaucoup
apprécié
la première fois, qui est en fait un classique.
Moi, je l'ai vu il y a une dizaine d'années, donc c'est plaisant de le revoir 10 ans plus tard et de se rendre compte qu'il est toujours aussi nul et aussi...
Écoute, pareil, je l'ai vu vers 2010, je pense, qu'on s'est fait quelques nanars avec des potes. C'est vraiment un nanar d'initiation. Hein. Je te l'ai dit dans la soirée, j'ai dit, voilà, ça, c'est vraiment le type de film que je conseille aux gens qui veulent se mettre au nanar. C'est tout simplement un chef-d'œuvre réalisé par Graydon Clark en 1988. Un film qui s'appelle Uninvited en anglais, mais qui est connu chez nous sous le nom du clandestin.
Peut-être il est possible qu'il ait pu subir une expérimentation chimique du système nerveux. Je ne sais pas, mais il se pourrait que notre chat administre sa chimie lors de ses morsures. Alors si on lui a administré une sorte de stéroïde métabolique, ça pourrait expliquer la puissance de ses morsures.
Tu veux dire par là qu'ils ont empoisonné ce pauvre chat et qu'il est un danger pour nous tous ?
Tout ce dont je suis certain, c'est que les cellules de Mike se multiplient à une allure phénoménale. En tout cas, il a été empoisonné.
Ah là là, le clandestin. Ah, c'est un film mythique, puisque c'est quand même... Je trépine d'émotion, j'ai envie de dire tout ce qui se passe dedans, tellement j'adore ce film. Alors, déjà, par rapport aux deux premiers, il faut dire une chose, c'est que c'est un vrai film. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, c'est cohérent.
Ouais, c'est le film qui ressemblait le plus à un film dans les quatre, quoi, en tout cas, c'est vrai.
Bah, en fait, grossièrement, le clandestin, c'est juste un mauvais rip-off d'Alien. Comme ils l'ont décrit dans leur dépliant, c'est Alien qui rencontre la croisière s'amuse avec un chat, en guise de grand méchant.
Ça peut se résumer, mais très simplement, c'est un chat mutant qui vomit un chat des enfers qui tue des gens sur un bateau. Voilà.
Voilà.
Alors après, je suis désolé, c'est pas un mauvais film, parce que moi, mine de rien, ça m'a permis de rencontrer ma nouvelle idole, Walt de Wall Street.
Oh putain, Walter de Wall Street.
Ma vie a changé.
Walter de Wall Street ? Ce type est le meilleur agent de change du monde. Il a fait plus de millions à Wall Street que n'importe qui.
Ah ! Mais ça serait pas Walter de Wall Street !
Walter, joué par Alex Cord, qui jouait le rôle de Michael Goldsmith-Briggs III, alias Archangel, dans Supercopter. Excusez du peu, quoi. Une vraie star des années 80.
Un beau gosse.
Ah oui, t'as aussi le mec qui joue dans les Y a-t-il un flic, là ? J'ai oublié son nom...
Oui, George Kennedy qui donne mollement un coup de pied parce qu'on nous a appris qu'il s'était cassé la jambe avant ou pendant le tournage.
Il y a Rob Estes aussi, au tout début de sa carrière. Rob Estes, les gens le connaissent, c'était le flic dans Les Dessous de Palm Beach, il était dans Melrose Place et il jouait un personnage de père dans la série Beverly Hills il y a 7-8 ans à peu près. Donc ça reste quand même un acteur qui lui a
une carrière.
Il s'est fait connaître quand même. Sauf qu'on le connaît comme un brun un peu ténébreux, un peu musclé. Là, c'est une sorte de crevette avec des cheveux teints en blond. Donc ça casse un peu le truc quand même.
Un acteur TF1, que des séries qui ont fait des belles heures de TF1, dis donc. Non mais Le Clandestin, oui, ça ressemble à un vrai film. En fait, là, c'est vraiment un mauvais film. Le scénario a été torché. Les acteurs, alors certains se débrouillent. Il y a celle qui essaie de faire la folie. Pourquoi pas, il y a un petit truc. Enfin, les acteurs sont pas bons. Mais ils sont pas aux fraises comme dans le premier film ou comme on le verra dans le quatrième, quoi. En fait, c'est des acteurs qui, mieux dirigés, auraient pu faire quelque chose de correct. Certains sont même les deux plus vieux, hein, Alex Cord et George Kennedy, peuvent être bons, quoi. Ils sont bien dirigés. C'est juste que le réalisateur lui-même, ils en parlent dans un de leurs podcasts, ils l'ont déjà rencontré. Le type est très lucide. En fait, c'est quelqu'un qu'on embauchait parce que il faisait partie de ces réalisateurs comme la Canon aimait bien, notamment. Alors, je sais plus si c'est un film Canon ou pas, Le Clandestin, je crois pas.
Non, pour le coup, non.
Non, je crois pas. Non, c'est des réalisateurs qui savent faire très vite fait des films comme ça sans trop dépasser du budget, quoi.
Ouais, c'est des faiseurs, quoi.
Oui, c'est un faiseur. Et on voit qu'il y a du budget. Il y a donc un bateau qui, à mon grand étonnement, au milieu du film, je me suis rendu compte que c'était une maquette.
C'était une maquette. Ouais, mais tu t'en es rendu compte quand même au bout de 5-6 plans. Tu fais, mais ce serait pas une maquette quand même.
J'étais fatigué.
Après, il faut rappeler que ça dure quand même de 6h du soir à 8h du matin. Donc la fatigue peut jouer.
Sérieux?
Bah, si, mais au bout de 5-6 plans, tu vois. Au bout de 5-6 plans, il me fait, mais c'est une maquette.
On voit aussi qu'il y a des moyens, il y a du moyen dans l'animation, puisque quand même, alors, oubliez les animatroniques foireux, oubliez les images de synthèse tâtonnantes des années 80. Non, ici, nous avons un Gamapa qui a été transformé en chat mutant. D'ailleurs, si vous êtes observateur, de temps en temps, on peut apercevoir un bout de bras qui manipule le chat. Notamment dans la scène de la camionnette qui nous montre la maîtrise du bruitage. Le mixage est magnifique. Cette camionnette qui tombe... Oui, alors déjà, il y a les bruits du chat de l'enfer, mais ça, on va y revenir. Mais déjà, il y a la fameuse scène très connue des nanardeurs de la camionnette qui tombe avec un bruit de verre qui se brise en continu. Et on a, comme tu viens de le faire, Ben, ce miaulement.
C'était pas moi, hein, c'était Bernie.
Ah, c'était Bernie. Alors, c'est pour ça que c'était aussi mal fait.
Oh.
C'était mieux fait que dans le film.
Tu fais super bien le chat.
En fait, il faut savoir que le chat miaule en continu. Dès qu'il est dans la pièce, qu'on le voit ou pas, il miaule. Et j'ai envie de dire, il miaule surtout quand il a la bouche fermée. Il y a quelqu'un qui était payé pour appuyer en permanence sur le bouton miaulement.
C'est quand même un film politique parce que c'est un chat qui sort des laboratoires et qui a été tripoté génétiquement, hein, quand même. Hein, c'est...
Totalement. D'ailleurs, je crois que c'est Graydon Clark qui joue un des scientifiques. Et dans le générique, on voit que Graydon Clark a fait plein de choses. Il y a un autre Clark, ça doit être son frère ou son cousin, qui a fait plein de choses. Pareil, un film un peu familial, même si c'est une grosse production. Là encore, je mets des guillemets. Hein. Et oui, non, mais c'est... Il y a un vrai scénario. Déjà, le scénario est compréhensible. C'est déjà ça.
Ouais, mais quand même, la menace, c'est un chat, quoi.
Non, mais c'est cadré. Enfin, c'est Marty qui disait que c'est un nanar d'initiation, et c'est vrai, dans le sens où c'est un film où les gens qui connaissent pas les nanars ou qui aiment pas forcément, ils vont peut-être pas forcément adhérer, mais ils vont réussir à suivre sans être trop perdus. Il y a un scénario, il y a des acteurs qui sont pas... Pour la plupart, ils sont pas bons, mais ils sont pas non plus... Enfin, ils ne sortent pas du film de leurs prestations. Elles sont un peu too much, elles sont un peu exagérées. Les personnages ont des réactions un peu débiles parfois aussi. Mais grosso modo, ça passe quand même. Alors oui, c'est un chat, oui, c'est mal animé. C'est drôle parce que ça en devient nul sur certains excès. Mais le truc se laisse voir quand même. Hein. Ça pourrait très bien passer sur
RTL9 comme ouais, tu disais en intro justement.
Ou même TMC ou TF1 film et série l'après-midi. Enfin, ça a rien de honteux. C'est rigolo, c'est fun parce que c'est nanardesque dans le sens noble du truc. Là où derrière Twisted Pair et les
ça reste fidèle
voilà.
À lui-même. Quoi.
Là où Twisted Pair et les aventuriers du système solaire, c'est du nanar de l'extrême quand même. Hein. Je veux dire, faut avoir le cœur bien accroché et faut survivre, quoi. Faut être un aventurier pour voir ces films, quoi.
Bah, n'empêche, ils ont voulu vraiment montrer plusieurs facettes du nanar, quoi. On a le premier qui est les ovnis, ce qu'on appelle vraiment les ovnis, les choses incompréhensibles. Le deuxième,
c'est un peu comme de Rome, hein. Au final, tu sais, peur, c'est un peu.
Ah non, c'est au-dessus. J'ai vu The Room le matin même. Il y a une structure aussi, hein. Je veux dire, elle est complètement débile, on est d'accord. Mais il y a une structure, tu sais, grosso modo, ce qui se passe.
Oui.
C'est un film d'auteur.
Non, mais c'est mal foutu. Et en fait, essentiellement, le vrai problème de The Room, c'est son acteur principal. Parce qu'au final, le scénario, il est, il est bête, mais s'il n'y avait pas Tommy Wiseau qui est déjà bizarre en lui-même et qui en plus joue très mal, The Room n'aurait pas eu cet éclat-là, en fait.
Nelbrin, il me faisait penser un peu à Wiseau, hein, tu vois, je trouvais que c'était un peu le même genre d'illuminé, quoi. Le mec qui fait son film à tout prix et qui est persuadé que ça va être
ouais, mais
bien.
Je trouve
quoi,
que Nelbrin, il avait un côté dérangeant que Tommy Wiseau n'avait pas. Et Tommy Wiseau était dans un égo trip.
Ah si, Tommy Wiseau est beaucoup plus dérangeant que Nelbrin. Nelbrin, il est monolithique.
Moi, je trouve que si, mais bon, après, il y a débat.
Non, Nelbrin, il était dérangeant sur ce que le film racontait, en fait. Son blabla incompréhensible, sa façon, sa misogynie complète. Tommy Wiseau, il avait envie de montrer que lui, c'est un homme super bien, il est trompé par une jeune fille de peu de vertu.
Ah, c'est un drame social, c'est un drame social ou un drame romantique plat, quoi, The Room.
Mais il y en a des kilotonnes qui passent sur M6 et TF1 l'après-midi, hein, avec quasiment le même scénario, quand même. Hein,
Mais en fait, dans les deux cas, on a quelqu'un qui se prend pour un auteur et qui se fait un ego trip, sauf que Tommy Wiseau, lui, c'est un étranger, parce qu'on ne sait pas trop d'où vient Tommy Wiseau. C'est très bizarre, hein, il vient de l'Est, on sait pas trop, on connaît pas trop son parcours, mais c'est quelqu'un, c'est un peu un extraterrestre qui essaie de faire un film hollywoodien comme il pense qu'on doit faire un film, sauf que tout est foiré, tandis que Nelbrin, lui, il essaie de, je sais pas, de faire autre chose. D'ailleurs, Nelbrin, physiquement, je me disais, il me rappelle quelqu'un. Eh ben, je sais maintenant qui me fait penser. Il me fait penser à Bob dans That 70's Show.
Ah ouais.
Il est un peu, je trouve qu'il a un peu la même gueule.
Oui, c'est vrai.
Le clandestin, c'est un film très 80s parce que donc déjà on a la créature mutante, la transgénique, tout ça. On a eu depuis la fin des années 70 avec Alien, plein de films de ce genre. Il y en a eu des films pourris. Hein. Je repense à un classique de RTL9. Mâle, mutant, aquatique en liberté, avec un monstre dégueulasse tout pourri, c'est vraiment dans l'air du temps. On peut penser au film à la Cronenberg, hein, à la mouche par exemple. En fait, le clandestin, ça va puiser dans tous ces films qui étaient à la mode depuis 10 ans.
Tu compares la mouche au clandestin.
Ça a du sens quand même. Hein.
La créature dégueulasse, une créature à la Carpenter ou à la Cronenberg, tu vois, un peu dégueulasse, c'est comme un peu The Thing, il peut sortir de n'importe où et on le voit pas, quoi. Et en même temps, c'est très 80 parce que y a les mecs de Wall Street, ils sont obsédés par l'argent. Il y a quand même une scène d'aérobic. Enfin, c'est très 80s dans l'esprit.
Oui, c'est exactement ça. C'est 80s, c'est un Ivetti, le clandestin. Enfin, moi, je l'appelle le chat. Hein. C'est un cousin éloigné, un peu dégénéré, pas méchant, mais sans argent, sans temps, parce que je pense qu'ils l'ont tourné en 2 semaines, le machin, quand même. Hein. Sans moyens et avec un scénario assez bête. De tout ce qui est alien, la mouche, etc. Et je pense que c'est le fait que ça a cette connotation très étise, qu'il y a un chat mutant avec un chat des enfers, c'est ça qui a fait le succès de ce film. Mais je pense qu'il y en a eu beaucoup d'autres qui ont sombré dans l'oubli, qui sont pas aussi fun que celui-là.
Oui. Et puis il y avait quand même un acteur qui ressemble à un espèce de mauvais Thierry Roland. Le fameux Albert.
Mais en plus,
celui qui boit du vin rouge.
Il a un nom magnifique, je crois qu'il s'appelle Glou Goulader ou un truc comme ça.
C'est celui qui meurt en premier dont tu parles.
Oui, voilà, oui. Et puis d'ailleurs, ce film a donné, nous a pas mal enthousiasmé. Il y a les fameux miaulements qu'on a fait toute la soirée. Le cul sec, quand on voyait Albert ou d'autres personnes boire, on a eu droit à des culs secs. Et surtout, ce film, il est très drôle parce qu'il a des répliques. Il a 2-3 répliques très croustillantes qui tournent beaucoup chez les amateurs de nanar. Il y a le fameux moment où Walter remet à sa place une des jeunes femmes sur le pont, comme vous pouvez l'entendre tout de suite.
Rachel, tu n'as pas encore remarqué, tout est fini. Ça n'a plus aucune importance. Plus rien n'a d'importance.
Vous avez peut-être envie d'abandonner, mais moi pas.
Eh bien, au moins, tu es cohérente. Seulement tu resteras une connasse.
C'est pour ça que je dis le film reste cohérent tout à l'heure.
Comme vous l'entendez, Walter s'est parlé aux femmes, quoi. Et il y a évidemment la fin où on apprend que grâce à l'argent qu'ils récupèrent, ils vont pouvoir...
Je suis désolé, Rachel.
C'est grave.
Il est mort. Je me demande ce qu'il y a de si important dans ces mallettes pour en perdre la vie.
Il y a au moins $1 million.
Assez pour acheter un autre bateau!
Et pour financer ton doctorat en biologie!
Ouais!
Car oui, aux États-Unis, hein, finir un doctorat, ça coûte cher. Donc, vaut mieux piquer l'argent d'un mania de Wall Street, hein, si vous voulez pouvoir achever vos études.
J'adore cette réplique, hein, n'empêche. Ça va pouvoir financer le doctorat en biologie. C'est quand même assez magique.
Oui, et puis l'enthousiasme, je veux dire, le mec, il a vu ses deux meilleurs potes mourir, enfin...
C'est l'adrénaline, messieurs, c'est l'adrénaline.
Ils sont tous morts, mais il va pouvoir financer son doctorat.
Mais de toute façon, ça se sentait qu'il les aimait pas, ses potes, franchement, ça se voyait de loin, quand même.
Oui, 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 dès le début, c'est un peu le pestiféré, il vient les embêter avec les deux jolies jeunes filles. Heureusement, il y a une troisième jolie jeune femme sur le bateau pour lui.
Ouais.
C'est juste hallucinant. Et puis, la façon dont il se débarrasse du char. Oh là là, alors, il faut le voir, on va rien dire. Vraiment, cherchez sur YouTube le combat final contre le chat.
Non, il n'y a pas de mots, non. Mais c'est ça qui était bien quand même, parce que La Nuit Nanarland, les deux premiers films, ils sont rudes quand même. Et mettre le chat, tu vois, c'est un côté qui est...
On était récompensé.
Voilà, c'est ça, c'est ok, ça va. Là, ça va, on est quelque chose de doux, de douillet, de sympa.
J'ai adoré hein, les aventuriers du système solaire. Moi, j'ai beaucoup ri hein, devant celui-ci.
Je peux le dire, hein, j'ai dormi sur la fin des aventuriers. Donc, finalement, j'ai vu la portion qui m'intéresse.
Non, mais les aventuriers du système solaire, c'était cool, c'était sympa, mais c'était bizarre quand même.
C'était rigolo.
Et c'était long.
Moi, la menace communiste, ça me fait toujours rire, hein, je t'avoue. Donc...
Et puis, le chat, c'était un peu une récompense. Mais ils auraient peut-être dû le mettre en premier et laisser en deuxième les communistes, quoi. Parce que c'était trop quoi, Neil Breen en premier.
Moi je l'aurais mis en deuxième. Neil Breen comme un choc, le chat pour calmer un peu le jeu et puis voilà quoi.
Ouais, peut-être. Et puis bon, le titre quand même Uninvited, il est intéressant en VO parce qu'au final qui n'est pas invité sur le bateau? Est-ce le chat? Est-ce les filles? Bon, les filles elles ont été invitées, mais bon, est-ce la coule douce? Est-ce les mecs que les filles ont ramenés? Enfin, est-ce le mauvais goût qui n'était pas invité sur ce bateau? En tout cas, le talent n'était pas invité, hein. Ça, c'est certain. Le clandestin, vraiment, un nanar, si vous voulez vous initier au nanar, allez-y. Si vous l'avez jamais vu et que vous aimez les nanars, allez-y. Enfin, un classique, vraiment, indémodable. Autre classique des nanars, mais plutôt classique du film de Baston, le dernier film... Bruce contre-attaque. Alors Bruce contre-attaque, vous dites mais de qui parle-t-on? Parle-t-on de Bruce Lee? Mais pourtant ce film ne figure pas dans la courte mais glorieuse filmographie de Bruce Lee. Alors il y a Bruce Lee mais presque. Enlevez une lettre et vous obtenez, messieurs, on obtient quoi?
Bruce Le.
Et oui, car lorsque Bruce Lee meurt tragiquement au début des années 70, on a eu droit à une tétrachier de faux Bruce Lee. Alors on a eu Bruce Le, Bruce Lee avec un I. Ah oui, non, mais c'est le mot.
Oui,
hein.
Oui, oui.
Je vois que non, ça te fait de l'émotion, là.
C'est exactement ça.
Non, parce qu'il y a eu Bruce Lee avec un I, Bruce Lee avec un Y, donc Bruce Lee. Les deux plus connus, c'était Bruce Lee et Bruce Lee avec un I.
Dommage qu'il n'y a pas eu de Bruce Lee. Bruce Lee, Sylvester Stallone.
T'as eu même Brandon Lee aussi.
Oui, il y a eu Bronson Lee, qui était avec... C'était un Bruce Lee à moustache. Oh,
Bronson Lee, pardon, excusez-moi. Brandon Lee, c'est le fils de Bruce Lee, en plus, excusez-moi.
Parce qu'il y a eu Bruce Lee avec un I, Bruce Lee avec un Y, Bruce Lee, L-A-Y.
Le plus connu, c'est Bruce Lee, justement. Il en a fait une quarantaine, hein, Bruce Lee, quand même. C'est...
Ah, d'accord. Parce qu'on a aussi eu Bruce Lee, L-A-I, Bruce Lee, L-E-I, il y a eu Dragon Lee. Alors, ils ont fait toutes les combinaisons possibles avec Bruce, ou bien Lee, ou bien Dragon. Et au bout d'un moment...
Il y a eu Stan Lee aussi, je crois.
Je crois, oui. Et bon, pour Bruce Lee et compagnie, quand ils sont arrivés aux consonnes, ils se sont dit, bon, allez, on va passer plutôt à Dragon quelque chose. On a eu d'ailleurs des Bruce un peu spéciaux. Il y a le Bruce Lee turc, qui est en fait un turc à qui on a mis une coupe au bol et des lunettes. Nanarland a eu la bonne idée de diffuser l'épisode de Nanaroscope consacré à la Bruceploitation juste avant le film et qui était consacré à Bruce contre-attaque en fait. Et ils ont également diffusé un reportage, Bruce Le, qui es-tu? Car figurez-vous que Bruce Le est en fait français.
Ah ouais?
Oui, c'est pour ça qu'il parlait français dans...
le réalisateur est français, André Cobb.
Le réalisateur de ce film-là est français et il me semble que Bruce Le est soit français, soit francophone.
Je ne pense pas qu'il est francophone, hein, pour le coup. Il était doublé hein, dans le reportage qu'ils ont diffusé au tout début. Ouais.
Ah oui, rien à voir, de son vrai nom, Huang Qinlong. Nom d'origine taïwanaise et birman. D'accord, ok, bon, rien à voir.
Parce que justement, dans le reportage qu'ils ont diffusé au tout début, il parle qu'il a connu le kung-fu dans son pays d'origine, etc.
Oui, 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 donc non, bon, alors je raconte des bêtises, ne m'écoutez pas. Et donc, on a ce film qui est une coproduction. Hein. Il y a de nombreux pays qui se sont mis pour produire ce truc. Donc, Bruce Lee dans l'histoire. Alors, c'est compliqué. Alors, j'ai avoir du mal à la résumer. parce que j'ai dormi. Ben, toi tu es parti.
Hein. Moi j'ai fui.
Puis bon, tu devais prendre le train le lendemain.
Oui, non, mais la nuit Nanarland dure de 20h à 8h, soit 12h. J'ai tenu 8h30, je trouve que j'ai été brave. J'ai survécu à Twisted Pair, j'ai tué aux aventures du système solaire, je suis parti avec le chat, je trouve ça honorable.
Et du coup, t'as raté la dernière bande-annonce qui diffuse tout à la fin, on en reparlera tout à l'heure.
On en parlera tout à l'heure, hein, mais quand il y aura plus d'enfants, hein, évidemment. Donc, Bruce Contre-Attaque est une production française, hongkongaise et grecque. Me demandez pas pourquoi.
Réalisée pas italienne, par vu que la moitié se passe à Rome, je pensais qu'il y avait une coprode italienne.
On va revenir dessus, mais non. Et non. Ouais. Donc, co-réalisé par Joseph Velasco et Bruce Lee. Bruce Lee lui-même a co-réalisé. Et au casting, on retrouve quand même Harold Sakata. Est-ce que vous savez qui est Harold Sakata?
Je sais pas, c'est un cousin des Zapata, j'en sais rien.
Non, pas du tout.
Je cherchais une vanne aussi, j'en ai pas trouvé.
Si je vous dis Goldfinger et chapeau.
Ah, c'est James Bond.
J'ai l'impression que c'était des indices dans Fort Boyard. Quoi. C'était.
Il a un tout petit rôle par contre dans le film.
Oui,
en fait. C'est juste un méchant à un moment en fait.
Oui.
Il se bat contre lui, ça dure même pas 5 minutes.
Tout à fait. Donc, un des hommes de main de méchants les plus emblématiques de James Bond fait une apparition dans un rôle qui volontairement rappelle ce rôle-là avec le thème de James Bond en fond.
C'est ce que j'allais dire, ouais. C'était le thème justement à ce moment-là.
Voilà. Et donc, ça, je vous donne cet exemple tout de suite. Pourquoi? Ben, pour vous donner le ton du film. On ne comprend rien. C'est décousu. En gros, ben, Bruce Lee, je sais plus comment il s'appelle dans le film, se balade entre la France et l'Italie. Il lui arrive plein de choses. On comprend pas tout. Il se fait agresser dans tous les sens. Il y a des ninjas, mais vraiment derrière chaque lampadaire. Sa copine se fait tuer. Il est aidé par une policière trop maquillée. Enfin. Alors, j'ai dormi, hein. Honnêtement, j'ai dormi pendant le film.
Non, mais en plus, t'as dormi, mais tu sais même pas d'où elle débarque, la flic. Hein. Elle est là, à chaque fois, elle pop, tu te dis, mais comment elle a pu le retrouver? À chaque fois, tu sais, quand il sort de l'hosto et tout, elle le retrouve, tu fais, mais comment elle pouvait savoir qu'il était là en plein milieu d'un parc? Enfin, c'est juste hallucinant.
Elle est là, accompagnée d'un autre flic, il me semble. Alors, c'est quand même un film qui parle de réinsertion, hein, parce qu'au début, Bruce sort, on va l'appeler Bruce. Je me demande si ça s'appelle pas Bruce dans le film, d'ailleurs. Bah oui, le film
d'ailleurs, le flic qui l'accompagne, c'est le réalisateur du film, en fait.
Il me semble, ouais.
Il n'y a pas de petit profil.
Oui, c'est ça.
Et donc, voilà, Bruce, au début du film, sort de prison. Il ne veut pas rebosser pour le mafieux qu'il employait avant. Et c'est pour ça qu'il se fait agresser dans tous les sens, qu'on tue sa copine qu'il rencontre en Italie. Et donc, comme tu le disais, il y a des scènes tournées en Italie. Et il y a deux scènes, moi, qui m'ont marqué. Alors, il y en a une où j'étais encore conscient, c'est celle dans la fontaine. Et tu te rappelles notre réaction
je me rappelle très bien.
Oui, donc elle va dans la fontaine. Et là, je vois, moi, je tressaille. Et je vois Bernie qui sursaute, qui fait, mais attends, mais c'est une fontaine connue. Je ne sais plus exactement laquelle c'est, mais tu me dis, mais...
Trévi, non? C'est pas...
Oui, je crois que c'est celle-là, ouais.
C'est la fontaine de Trévi, ouais, le nom, hein.
Ouais. Et tu me dis, mais comment ils ont le droit de faire ça? Je fais, non, regarde bien les gens derrière, ils n'ont pas le droit. Les gens derrière sont étonnés ou consternés.
Mais je pense qu'ils n'ont eu aucune autorisation de tournage.
Non, ça se voit dans le métro. Ça se voit dans le métro.
Ouais, non, complètement. Et la plupart des musiques utilisées dans le film sont des musiques ultra connues qui proviennent d'autres films. Hein. Donc, ouais. Les droits d'auteur, ce qu'ils expliquaient pendant la nuit d'Anarland, c'est qu'en gros, il a été diffusé là dans son intégralité. Et c'est un peu exceptionnel parce qu'il ne peut pas sortir en DVD ni rien. Parce qu'en gros, ils n'ont aucun droit sur les musiques du film.
Ouais, il a été diffusé sur la fameuse 5, cette chaîne que j'aurais tellement voulu connaître, avec des scènes coupées et des musiques enlevées, parce qu'on a donc le thème de James Bond, on a le début d'Opération Dragon, mais que le début, hein, qui revient en boucle plusieurs fois. Du coup, on avait l'impression qu'il y avait un épisode de 2 heures de perdu qui commençait. Hein. Moi, ça me réveillait. De temps en temps, quand je dormais, ça me réveillait.
À chaque fois qu'il y a une bagarre qui commence, en fait, t'as la musique... La musique qui commence à chaque début de bagarre, en fait.
Et donc, on avait cette scène dans la fontaine et celle dans le métro où on voit que les figurants ne figurent pas vraiment, mais étaient vraiment là en tant que touristes ou en tant que badauds et étaient étonnés de voir des combats s'enclencher ou les personnages faire quelque chose. Et donc, il y a ce combat dans le Colisée qui rappelle le célèbre combat entre Chuck Norris et Bruce Lee dans La Fureur du Dragon ou bien Opération Dragon, je sais plus.
Je crois que c'est La Fureur.
C'est peut-être La Fureur, ouais. Sauf que là... alors moi, concrètement, j'ai un peu dormi pendant ce passage, mais j'ai regardé de nouveau des passages sur Internet. Et en fait, a priori, ils n'ont pas eu les autorisations et ça n'a pas l'air d'être dans tout le Colisée. J'ai l'impression que c'est un endroit, je ne sais pas, c'est dans une partie du Colisée ou devant, ou enfin, il y a que 2, 3, 4 plans. Enfin, on a l'impression que vraiment, ça a été fait
pareil. La scène de fin.
Oui, la scène de fin, ouais.
faut quand même préciser qu'elle dure extrêmement longtemps, cette scène. Au moins 10 minutes montre en main, et qu'en gros, c'est un peu comme pour les aventuriers du système solaire, c'est une fois qu'ils ont fait un plan, ils répètent 5 fois pendant le film. C'est-à-dire qu'on voit un plan où il avance, on va voir le plan où le méchant avance, et c'est rebouclé comme ça 2-3 fois, en fait, jusqu'à la bagarre finale.
Ouais, et comme ils font pas ça dans le reste du film, ça sous-entend qu'ils avaient pas les droits. Ils ont vite fait pris des plans comme ils pouvaient, et ils ont réutilisé ça en boucle, quoi.
Je pense.
Donc voilà, on n'a pas grand-chose d'autre à dire sur ce Bruce. Ce Bruce, genre à part le Bruce.
On peut noter qu'il se frotte tout le temps le nez, un peu comme le Bruce Lee, en fait. Il a les mêmes mimiques que Bruce Lee, pour le coup.
Oui, ben, comme ils le disent dans le nanaroscope, il se touche le nez, je ne sais plus comment il dit, il se vide les cavités nasales à se les faire péter, quoi. Mm-hmm. Bruce Lee, c'est quelqu'un qui, sur la fin de sa vie, se prenait pour Bruce Lee. Réellement.
Et en même temps, comme on disait, il a fait une quarantaine de films comme ça, et du coup, ça lui a peut-être un peu monté au cerveau aussi, hein, de tout le temps se prendre pour bosser.
Je pense, ouais. Et je crois qu'il a eu une fin de vie rocambolesque, je sais plus si c'est lui qui a fini en prison, ou bien qui a fini recherché, bref. Toujours est-il que, comme tu le disais, c'était une exclue, donc ce film-là, ce montage, en plus en 33mm et tout, c'est pas sûr qu'on le reverra ailleurs, sauf sur des sites pirates. Neil Breen, c'était une exclusivité qui restera sans doute une exception. Hein. Et quand même, juste un petit mot, et puis on va vite embrayer sur la suite, hein, on ne va pas non plus trop s'éterniser. Les aventuriers du système solaire est très particulier car c'était une version en 4K HD.
4K, eh.
Il n'y avait que les gens de Nanaland pour faire ça. Ils ont restauré une bobine, ils ont contacté ils ont raconté, hein, c'est quelqu'un qui est aux États-Unis ou à Londres, je sais plus, enfin, ils ont contacté quelqu'un qui collectionne ce genre de films, et ils ont dessus accolé une VF qu'ils ont nettoyée. Il y a, je crois, une ou deux personnes qui sont attelées à nettoyer cette VF. Donc on a là une version 4K HD avec un son, remasterisé, c'est ça, ouais, enfin, personne n'aurait jamais fait ça à part eux. Ça ne servira sans doute plus jamais. Je ne sais pas s'ils arriveront à éditer ça. Nanarland a déjà réussi à éditer des DVD comme celui de Devil's Story, mais ça va être compliqué, je pense, vu les droits, vu que c'est impossible de retrouver les ayants droit de tout ce qui a été repompé dans le film. Mais voilà, on a une version 4K HD avec un bon son qui existe de ce film.
Mais tu permets une merveilleuse transition, parce qu'on va parler des bandes-annonces qu'il y a entre les films qu'on a cités là précédemment.
Quel talent!
On a également une version 4K de Hitman le Cobra, quand même. Et ça, c'était beau. C'était assez magique. Philippe
fais
en 4K.
Fais pas le con, Philippe.
Avec en plus un balayage sur l'écran pour bien nous montrer la différence, quoi. On aura peut-être droit à Hitman le Cobra en HD.
Et en vrai, c'était vachement bien.
Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé.
Ta gueule. Viens ici, sale enculé.
Salaud.
Alors voilà, ça c'est un des deux extraits, ça, et puis l'extrait de Chuck Norris qui met les pieds où il veut en intro, c'est vraiment... Ils peuvent pas faire une soirée Nanaland sans passer ces deux extraits-là.
Ouais, hein. C'est des classiques, on va dire. Hein.
Oui, c'est des classiques. J'étais déçu qu'il n'y ait pas eu d'extrait de Whitefire, mais ils ont passé la chanson à un moment, j'étais content. Et d'ailleurs, Philippe, c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans l'imaginaire collectif, parce qu'il y a, je sais plus, c'est des assurances ou quoi, qu'il y a une boîte qui fait une pub avec des mecs qui parodient Philippe.
Ouais, le truc avec les deux roues, là...
Ouais, je sais pas, j'ai vu ça à la télé l'autre jour.
Les deux roues, là, l'assurance des deux roues, un truc comme ça, je l'ai vu ce truc. Mais c'est dans la culture populaire, hein, cet extrait, oui. Il est ultra connu hein, au final. Même chez les non-initiés.
Ouais, parce qu'il y a une dizaine d'années de ça, c'est en 2010, il y a 9 ans, j'étais à un festival et aux toilettes, c'est un festival en plein air, quelqu'un d'un coup a gueulé Philippe, j'ai répondu c'est au-dessus de cage. Et d'un coup, j'ai entendu des gens qui gueulaient dans tous les sens, les insultes qui vont avec, et pendant 30 secondes, une minute. T'avais des gens...
Ta gueule !
Oui, voilà, qui criaient ça dans tous les sens, c'était magique. Et c'est devenu un classique, quoi. Et donc, on a eu moult extraits, que ce soit des extraits ou des bandes-annonces. Alors, messieurs, qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce que vous avez aimé ? Il y en a eu beaucoup. Hein. Compliqué de se rappeler de tout, mais qu'est-ce qui vous a marqué ?
Peut-être la fille de Charles Aznavour qui se fait noyer, peut-être.
Oui, c'était chaud, ça.
Ouais.
Ouais.
Les intrus, hein, c'était ça le titre.
Oui, des intrus, quoi, oui.
Un film avec Charles Aznavour et...
En fait, ça revenait sur... Il y avait sa fille ou sa petite fille qui avait été kidnappée. Et on voit un plan où elle est noyée, la peau. Enfin, on va dire que le droit des enfants, ouais, sur le tournage, il y a encore une trentaine d'années, n'était pas très bien respecté. Quoi.
Ils l'ont complètement oublié. Et puis en plus, je pense qu'il a noyé au moins pendant une minute, là, vu la tête qu'elle fait en sortant de la piscine. C'est
assez horrible.
Enfin, c'était marquant.
On a aussi une apparition de Balavoine dans c'est quoi le film ? C'est un truc. Qu'est-ce qui fait craquer les films ?
Et une apparition de François Copé aussi.
Oui.
C'est le truc avec les nanas qui parlent de François Copé, là, je sais pas si tu te souviens.
Oui.
On a eu tellement d'extraits quand même que c'est...
C'est un extrait d'un film un peu olé olé et c'était pas de la corrida.
C'est dur de se rappeler de tout.
Trois filles conversent et elles, visiblement, elles en veulent à un certain François Copé.
Mais un vieux film, hein. faut préciser que c'est un film des 70 ou 80 et tu sais pas du tout ce que vient foutre le nom de François Copé en premier lieu.
Oui. Et Ben, qu'est-ce qui t'a marqué, toi ?
Moi, j'ai retenu deux choses. Alors, j'ai retenu la bande-annonce d'un film indien. Je crois que c'était Lady Superstar, avec d'abord une course-poursuite de voitures, puis en fait une sorte de, vous savez, ces sortes de
un triporteur.
Voilà, qui leur saute dessus comme Fast and Furious. Et en fait, finalement, c'est une femme d'une 40-45 ans à peu près. Qui fait du tuning, enfin non, qui fait des rodéos avec son triporteur devant eux, en mode badass, et puis après, il y a des sales types qui sortent et ils veulent la taper, et elle leur amarrave la tronche, mais d'une force, mais ça n'a aucun sens, c'est merveilleux, et puis la bataille entre les deux ninjas, parce que entre les cuts et les bandes annonces, il y avait des quiz, et la finale, c'était, il fallait que les deux derniers vainqueurs choisissent entre le ninja jaune ou le ninja violet. Et c'était merveilleux, ce combat de ninja. C'était parfait.
C'était magnifique. Parlons de ninja, je crois qu'il y a eu au moins deux extraits où il y avait Richard Harrison en ninja. Richard Harrison, ninja moustachu, avec son camouflage.
C'est les films de Godfrey, en fait, qu'on a vu.
Oui, les films de Godfrey.
C'est le mec qui faisait... En gros, il tournait un film et il en faisait cinq avec au montage, en fait.
Exactement.
J'ai bien aimé aussi l'extrait où il y avait deux types qui parlaient. « Oh, bah là, dis donc, t'as entendu, c'est le ninja. Oh, bah oui, quelle histoire. Oh, bah tenez, chef, il y a un colis qui est arrivé. Oh, bah en fait, c'est deux sabres avec un ruban rouge. Qu'est-ce que se dire, c'est un défi ninja. Ah bah vous êtes un ninja, chef, alors vous allez répondre au défi. Le dialogue complètement improbable qui n'a aucun sens. Alors il y en a eu plusieurs, hein, mais celui-là c'était n'importe quoi.
Mais c'était Richard Harrison le moustachu. Il y avait donc cet extrait-là et l'extrait où il est en tenue ninja qui est une tenue couleur camouflage militaire.
Oui, c'est vrai. J'avais pas tilté, c'est vrai.
On a vraiment eu des extraits bizarres. Hein. Il y a eu I Love Hitler avec une femme qui aime une marionnette de Hitler.
Ah ouais, c'est vrai, il y avait ça. Il y avait le truc avec les tortues ninja aussi, je sais pas si tu te souviens. Les tortues ninja trop mal faites, là.
Ça avait l'air coréen.
Je pense.
Il y avait des films, alors vraiment de propagande. Il y avait des films de propagande. Hein. Il y avait Super Femme contre Chien Jaune. Donc un film qui était raciste envers les Asiatiques. Hein. On sent qu'on est un peu en guerre froide. Ah, c'était horrible. Hein. Le film Suburban Sasquatch avec son Sasquatch dégueulasse m'a beaucoup... Beaucoup marqué.
On a eu le combat entre Mike Tyson et Seagal aussi.
Et puis bon, bah, dans les classiques, il y a eu un extrait de Piège mortel à Hawaï, le fameux extrait du serpent.
Ah, on en a eu 3-4 hein, de Piège mortel, on en a eu plusieurs. Hein. En plus, c'est un de mes nanars préférés, donc pour le coup, j'étais content.
Et puis, parmi les bandes annonces, mais il y en a deux qui m'ont vraiment marqué, enfin, parmi les extraits plutôt, devrais-je dire. Alors, il y a eu un film dont on a eu deux extraits, c'est Les barbares arrivent. Non, ou En attendant les barbares.
Le film français ?
Oui, oui.
Oui, un film français super récent qui date d'il y a un an ou deux, qui est un espèce de nanar d'auteur avec un mage et une magesse.
Les réseaux sociaux.
Voilà, avec des gens habillés façon Moyen-Âge en carton qui vont voir un mage et donc une magesse. Il y a un bobo et une bobette, donc, ou une bobine, je sais plus, c'est trop chelou. C'est super chelou.
Les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux. Et puis enfin, il y a, je crois, la chose la plus magnifique qu'on ait vue. C'est un des deux grands moments avec Walter de Wall Street pour moi. C'est le moment où on a découvert un extrait assez long d'ailleurs, des musiciens municipaux de Brême. À côté de ça, Les Aventuriers du Système Solaire, c'est un chef-d'œuvre de Walt Disney. Alors c'est un film animé, donc présenté par un narrateur en prise de vue réelle.
Non, là, pour le coup, c'est pas animé, hein, c'est juste des images qui bougent, je sais.
Oui, en fait, c'est les films d'Ingo Pictures, je vous invite à aller voir leur site, c'est horrible. Ils font des espèces de pseudo-dessins animés, c'est très mal dessiné. Il y a aussi un extrait de Balto, version d'Ingo Pictures. Ils repompent tout, quand c'est libre de droit, ils font leurs propres adaptations. Quand c'est pas libre de droit, c'est pas grave.
C'est ça.
Dans ce film-là, il y a un chat qui a le design d'un des Aristochats. Ils ont repompé le Roi Lion, ils ont repompé Aladdin. Vous irez voir sur leur site, c'est dégueulasse.
Mais en gros, pour expliquer, c'est des images fixes qui bougent, mais à intervalles réguliers. Quoi. Ça bouge à peu près toutes les deux, 2-3 secondes, c'est l'image fixe qui va changer. Donc c'est ça qu'ils appellent dessin animé, en fait.
Voilà, ouais. Et donc on a des moments où c'est un mec en habit traditionnel bavarois ou tyrolien qui raconte une histoire. Alors la particularité, c'est non seulement c'est très moche, les dessins sont horribles, mais en plus c'est les Allemands eux-mêmes qui ont réalisé le doublage. Donc c'est un Allemand.
Et il y a une désynchro labiale de 2 minutes à peu près.
Exactement. Je vous invite à aller voir sur YouTube. Ça y est en entier sur YouTube. C'est moche. J'ai vu sur YouTube, dès le début, il parle de... Je vais vous raconter une histoire avec des collègues connus de moi. Kollegen, c'est se dire, je crois, ami en allemand. Et puis, en gros, ils ont traduit littéralement la phrase allemande, quoi. Et on a un moment, ce moment magnifique, où les ânes, le chien, et je ne sais plus quel autre animal il y a dans c'est l'adaptation d'un conte connu de Grimm, ils voient une mallette avec de l'argent. Ils font « Oh, il y a beaucoup d'argent !» Il y a sans doute 100 000 euros. Nein, je pense qu'il y a 20 000 euros. Les traducteurs ont craqué, quoi. Enfin, voilà, il y a eu les cuts qui étaient géniaux. Et puis, bon, on a eu cette longue bande-annonce en dernier. Bernie, je crois que tu voulais en parler. Hein.
Ah, bah, pas plus qu'un autre, quoi. Mais en fait, les Nuits Nanarland se concluent toujours par des extraits ou des bandes-annonces de films X à connotation nanardesque. Et du coup, je sais même plus le titre du film, en fait, dont on a eu la bande-annonce, qui a apparemment duré 7 minutes. Pour les jeunes oreilles, on va éviter de trop en dire, mais, oui. Mais c'était assez marrant. Ouais.
Je vais vous raconter maintenant une histoire de quelques collègues connus à moi. Ils ont fait de la musique dans une ville qui s'appelle Bremen. L'histoire commence comme cela.
Donc alors messieurs, cette soirée, c'était une soirée riche en émotions. Éprouvante, très dure, c'est quand même dur à suivre. C'est spécial.
Très drôle aussi.
Oui, très drôle, je ne regrette pas de l'avoir fait. Par contre, allez-y avec des amis et si possible des gens à peu près initiés au nanar, hein, parce que c'est compliqué. Il y a plein de gens qui ont quitté la salle au fur et à mesure, parce que si on n'a pas l'habitude, faut être dans l'ambiance. Alors, on s'est dit qu'on ne pouvait pas se quitter comme ça, on peut quand même faire quelques recommandations. Alors, messieurs, pour commencer, est-ce que vous auriez un ou plusieurs nanars à recommander aux gens qui aimeraient se lancer? Alors, je sais pas, Ben, tu aurais des idées de nanars. Pour quelqu'un qui veut découvrir les nanars, tu lui dirais quoi?
Déjà, je pense que si la personne veut découvrir les nanars, il peut se lancer directement sur Uninvited, le clandestin, comme on en parlait avant, ça semble assez parfait. Après, pour des nanars plus récents, on va dire, la définition étant des mauvais films sympathiques, on a des nanars en lien en plus avec Comics Office, on a des nanars de films de super-héros, ça existe malheureusement. Au-delà des mauvais films que sont par exemple Elektra, on peut envisager le deuxième Ghost Rider, qui est vraiment un mauvais film, mais qui est drôle, en fait, parce que ça en devient complètement nul, avec un Nicolas Cage complètement à fond, et Idris Elba qui s'interroge un peu ce qu'il fait là. Il y a aussi Catwoman, par je ne sais plus quel réalisateur épileptique français. Pitoff, merci.
Qui s'appelle pas du tout Selina Kyle dans le film, et qui fait du basket sur du R&B. C'est quand même assez particulier.
Catwoman, c'est la définition même d'une nanar.
Autant Ghost Rider, je trouve que c'est très mauvais, mais autant c'est vrai que Catwoman est plutôt drôle. Hein. Enfin, si tu le prends au second degré, c'est vraiment drôle.
Tu ne peux pas le prendre au premier degré, parce que c'est tellement mauvais que ça fonctionne pas, en fait. Que ça soit le moment où elle marche sur les toits en se déhanchant d'une manière... ça a pas de sens. Mais Pitoff est coutumier du nanar, quand même, hein, parce que Catwoman, c'est en fait son deuxième film après un premier succès, qui était celui de Vidocq, avec Gérard Depardieu et Guillaume Canet au début de sa carrière.
Oh là là.
Et ça c'est aussi proche du nanar quand même, hein. On est quand même sur un truc, alors c'est différent, c'est du nanar technologique. Pitoff s'enorgueillait d'avoir été le premier à filmer avec la technologie que George Lucas a utilisée sur la prélogie, mais c'est complètement horrible, c'est moche, et même le scénario est complètement nul, les acteurs sont en dessous de tout, au niveau des films d'Anardex, ça c'est ceux que je peux conseiller. Toman quand même en premier, parce que personne va rien comprendre, c'est complètement nul, c'est mauvais. Lambert Wilson erre dans ce film sans rien comprendre, il y a Sharon Stone aussi, enfin c'est parfait pour se lancer dans les nanars.
Ouais. Toi, Bernie, t'aurais un ou plusieurs nanars à conseiller?
Oh bah c'est plus ou moins ceux qu'on a évoqués dans l'émission. Moi, c'est comme je disais tout à l'heure, ouais, Piège Mortel à Hawaï, c'est vraiment celui que je conseille, quoi. Pour le coup, c'est un des plus drôles à mon sens.
Ça et Samurai Cop, c'est vraiment...
J'aime beaucoup les films d'Ed Wood aussi. C'est classique, hein, mais moi, ça me fait toujours marrer, en fait, les films d'Ed Wood. Je suis assez aussi attaché à tout ce qui est comédie franchouillarde, nanar, tu vois, tous les films de Max Pécasse. Enfin, moi, ça me fait beaucoup. Voilà. Mon curé chez les nudistes, toutes ces conneries. c'est...
Le facteur de Saint-Tropez avec
ça,
Paul Brébois.
Tous ces genres de films, moi, ça me fait bien marrer. Ou alors les films de Tatane, c'est très drôle aussi. Bon, je sais pas si vous connaissez Undefeatable, je sais pas si vous connaissez celui-ci où non. Le mec il se fait arracher les yeux. La scène de fin est assez énorme, je vous le conseille. Si vous ne l'avez jamais vu, je le conseille fortement.
Oui, après en nanar, on peut grosso modo conseiller tout ce qu'a fait Chuck Norris dans sa vie.
Déjà,
les portées disparues, les Delta Force.
Celui que j'adore aussi avec Steven Seagal, merde. Celui où il. Ah merde
Piège en haute mer hein.
Non, celui où les défenseurs de la montagne et tout là. Avec la réplique, je veux que tu protèges cette entrée comme le pucelage de ta sœur. Putain, j'ai un gros trou sur le du film. Ça va me revenir.
Ouais, bah donc. Ouais, voilà. Puis Chuck Norris, il y a tous les portées disparues, les Delta Force, oui. Le grand Invasion USA. Invasion USA, c'est déjà hard. C'est déjà compliqué.
Non, mais je pense que de toute façon, en nanar, on peut aller sur Walker
Texas
Ranger, ça passe très bien aussi. Hein.
Terrain miné, le film de Steven Seagal, je vous conseille voilà. Beaucoup. Celui-ci est très très drôle aussi.
Ouais. Pour ma part, voilà, je vous rejoindrai sur les Chuck Norris, Samurai Cop, Piège Mortel, tout ça. Et puis, bah, une fois que vous êtes un peu rodé, vous pouvez aller dans Whitefire.
Oh, c'est très bien, ouais, c'est très bien aussi ça.
La quintessence du nanar, hein, Whitefire, il y aurait tellement de choses à dire dessus.
Clairement.
Et puis l'homme puma. Pour rester dans les super-héros, l'homme puma.
Ah, bah dans le super-héroïque, ouais, celui-ci, c'est le meilleur.
La fameuse réplique de « Oh, j'ai vu quelqu'un voler, on aurait dit un félin volant ». Il y a Doc Savage, même si Doc Savage, il est un peu long. Le début de Doc Savage, il, esthétiquement, il est beau, notamment son immeuble, ça fait très... ça ressemble beaucoup au Gotham de la série animée des 90, c'est pas mal. Et figurez-vous qu'on a un petit bonus, on a Mr. René Bunny qui nous écoute, qui est sur le chat du logiciel pour lequel on enregistre, et qui nous conseille les Ghoulies 1 et les Ghoulies 2, des espèces de très mauvais rip-off des Critters et des Gremlins.
C'est pas si nanardesque que ça, je trouve. C'est plus mauvais que...
D'accord, ah ok.
Enfin oui, non, si c'est drôle quand même, ça va. Enfin,
D'accord.
C'est de la série B, quoi, en tout cas.
D'accord, et Bunny nous dit qu'il y en a 3 qui se passent au campus. Et puis il y a le mythique Troll 2, évidemment.
Alors, tu es convaincu?
Je n'y comprends plus rien. J'ai peur de faire le moindre mouvement.
Ça n'a rien à voir. C'est ton esprit qui réagit. Toi, tu as la frousse, mais ton autre, toi, non.
Et qui est cet autre? Dis-moi toute la vérité. Je veux savoir.
Dans tes veines coule le sang d'un dieu venu d'un autre monde. Tu es l'homme puma.
On s'est dit que, bon, des films, c'était bien, mais et si, pour rester un peu dans les comics, on conseillait des comics nanars? Alors Ben, est-ce que tu aurais un ou plusieurs comics nanars à nous conseiller?
Oh, il y en a beaucoup, hein, mais en récent, parce que comme ça nos auditeurs peuvent un peu suivre, il y en a un qui est en cours de diffusion en France et un qui ne va pas tarder. De mémoire, celui en cours de diffusion, ceux qui aiment bien les nanars, je les invite en fait à ne pas louper le retour de Wolverine par Charles Soule et beaucoup trop de dessinateurs. C'est un pur nanar. Alors ça retombe un peu sur la fin. C'est un peu dommage, mais le retour de Wolverine, c'est complètement nanardesque. C'est mal écrit, c'est plutôt bien dessiné, mais on sent que le dessinateur, je crois que c'est Matt Niven et celui qui fait Injection, je ne l'ai plus, Declan Chalvet, ils sont pas à fond. Ça n'a pas beaucoup de sens. On rajoute un nouveau pouvoir complètement débile à Wolverine. Il y a un méchant qui est complètement stupide. Les plans n'ont aucun sens. La division des numéros en, je crois que c'est selon les éléments ou selon des étapes de Wolverine, ça n'a aucun sens non plus. C'est complètement stupide. Donc ça, c'est un premier bon nanar en cours de diffusion. Et surtout, il ne faudra pas louper le vrai bon nanar en comics. C'est Major X de Rob Liefeld. Je ne suis pas le seul à dessiner, bien sûr, hein, parce que, évidemment, Rob Liefeld ne peut pas tout dessiner. Donc il y a un clone de lui, il y a Wise Portatio qui vient cachetonner un moment aussi.
C'est bien dommage d'ailleurs.
C'est bien dommage, mais ça rajoute ce côté nanar, tu vois. Major X, c'est parfait. Ça n'a aucun sens. C'est complètement débile. C'est complètement mal foutu. Il y a des changements de scénario, pas seulement au cours d'une mini-série, au cours d'un même numéro. Je me souviens que dans le numéro 1, il y a un changement de scénario 3 fois. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui semble venir du futur, mais en fait c'est une autre dimension, du futur en fait. Donc on ne comprend rien, c'est magnifique, et le côté vraiment nanardesque, c'est qu'il y a eu 6 numéros, et en plus un numéro 0, qui est complètement une escroquerie, parce qu'en fait il y a à peu près 3 pages d'Olifeld au début, la réimpression d'un numéro vieux de 25 ans, et 2 pages de fin pour essayer de tout caler ensemble. C'est magnifique.
C'est savant du rêve. J'ai lu la première mini-série Major X. Je confirme, c'est du nanar. Et pourquoi je dis la première ? Parce qu'ils ont déjà sorti les couverts pour une suite, qui a déjà commencé, je crois, non ?
Je crois pas qu'elle a commencé. Il y a le numéro 0 qui est sorti, où en fait, on se rend compte qu'il y a certes Major X, mais il avait des copains. Il avait Captain X, Colonel X, Sergent X, Lieutenant X.
Et M'Kay, M'K, qui est en fait un... M'Koy. Voilà, M'Koy. Qui, on sait pas, alors j'ai vu que la première mini, on sait pas si c'est un Hank McCoy... futuriste ou si c'est un descendant, c'est pas trop. Bien, Bernie, est-ce que toi, t'aurais une idée de comics nanar ou pas trop ?
Bah en fait, ouais, dans les comics qui ont été cités précédemment, moi je trouve pas que ça soit vraiment nanar, parce que je trouve ça juste mauvais, en fait, ça me fait moyennement rire, on va dire. Peut-être les dessins de Rob Liefeld, mais ça, les dessins de Rob Liefeld sont involontairement drôles, et là on pourrait le rattacher au nanar.
C'est un peu le Who est beau, le... de...
C'est ça. Je vais conseiller un bouquin qui s'appelle Les Super Zéros, où vous allez avoir une compilation des pires super-héros qui ont été créés dans l'histoire du comics. Vous allez retrouver Skateman, Fatman, l'infirmière militaire, le garçon arc-en-ciel, enfin vous allez voir, il y a Tonnerre Bunny aussi d'ailleurs, pour faire un big up à Bunny. C'est un bouquin qui est vraiment sympa en fait. Vous allez retrouver plein de héros qui sont clairement improbables et il y a des trucs assez sympas. Genre Skateman, ça a été créé par Neil Adams, si je me souviens bien.
Ah ouais.
Donc il y a des trucs assez étonnants comme ça.
Ok, merci. Alors pour ma part, j'en ai sélectionné plusieurs. Il y a les classiques. Les X-Men de Chuck Austen. Voilà, classique du nanar, s'il en est, hein, c'est vraiment, c'était incroyable. J'ai découvert ça quand j'ai commencé les comics en plus, mon dieu, heureusement que j'ai pas fui. Les Ultimates par Jeff Loeb, à savoir donc Ultimates 3 et Ultimatum, ça c'est du nanar grand.
C'est juste mauvais pour le coup ça.
Et puis bon, la JLA de Brian Hitch. Non, c'est du nanar.
Si, c'est... Par contre, la JLA de Hitch, ça c'est de la merde plus que... C'est pas très drôle quand même, c'est assez chiant à lire en plus pour le coup.
Alors attention, quand je dis la JLA de Hitch, je parle de sa première maxi qui était en 11 ou 12 numéros avec Rao. Ça c'était du nanar. Par contre la suite, quand il a vraiment repris la série Justice League, là c'était du... Là, ne le lisez pas, c'est du navet. Là c'est pas du navet, okay. C'est du nanar.
La difficulté du nanar en comics, c'est qu'à la différence de films comme L'Homme Puma, Le Clandestin, Twisted Pair, etc., tout ça c'est des personnages qu'on connaît pas en fait, qu'on découvre, c'est des personnages souvent génériques. Le problème des comics, c'est que régulièrement c'est des personnages qu'on aime bien. C'est bizarre et c'est désagréable de voir des personnages qu'on aime bien être traités en nanar. C'est pour ça que souvent, je pense que c'est difficile de l'identifier. Par contre, je suis assez d'accord avec Marty. Tout ce que Jeff Loeb a fait sur Ultimate, c'est complètement nanardesque. Donner un fist à Wolverine de Ultimate, c'était nul. Ultimatum, ça fait mal parce qu'il massacre des personnages qu'on avait commencé à apprécier. Mais ça n'a strictement aucun sens. Magneto qui cite le dieu chrétien pour faire une énorme vague, le colosse qui dévore la guêpe juste comme ça, on sait pas pourquoi, enfin, c'est nanardesque complètement, oui.
En gros, j'avais l'impression qu'à l'époque, il voulait tuer tous les personnages et qu'il en avait un peu rien à foutre de l'univers Ultimate, et il s'est dit, tiens, je vais tout casser, quoi. C'est l'impression que ça m'avait donné à l'époque, je t'avoue que j'ai pas relu depuis, donc...
Oui, mais c'est là où ça a aucun sens, parce qu'à l'époque, Ultimate avait énormément de succès, véritablement, et en fait Marvel, je pense qu'ils s'en sont rendu compte après, ils ont dit
c'est vrai qu'il avait tué le trois quarts du casting hein, pour le coup c'est...
Alors j'ai une dernière reco à faire avant qu'on passe à l'ultime étape du podcast, c'est tout simplement le site Nanarland si vous ne connaissez pas, leur ancienne série Escale à Nanarland sur Allociné qui est toujours visionnable en intégralité, son successeur spirituel mais qui est un peu différent, Nanaroscope, qui est disponible sur la chaîne d'Arte via YouTube. Et puis les deux livres Nanarland, évidemment, qui sont hilarants. Et encore leur podcast. Alors attention, si vous vous abonnez au podcast, il y a deux flux. Il y a les 10-12 premiers épisodes, en tout cas leur première année, qui étaient sortis sur un autre label, donc qui est sur un flux. Et puis ils sont devenus indépendants, ils ont leur propre flux. Bien messieurs, alors, avant de se quitter, je vais quand même vous donner un peu la parole pour que vous puissiez parler de vous. On va parler de choses plus intéressantes que les mauvais films sympathiques, pour parler d'événements et de sites sympathiques tout court, sans mauvaises choses dessus.
J'aurais bien cité les bouquins que Benny parle sur le chat, en fait, parce qu'ils sont vraiment très bons pour le coup.
Oui, alors vas-y, rajoute. Ouais, ah oui, j'en ai un en plus. Alors vas-y, fais comme si tu m'interrompais, tu voulais intervenir, vas-y.
En tout cas, on peut aussi conseiller les Cranios Monsters de Jean-Pierre Putters qui sont sortis chez Graf Zeppelin, il me semble.
Pas du tout, Graf Zeppelin, c'est des comics, les comics InScope. Il y a Benny, en fait, qui nous parle de ça, et les Cranios Monsters sur le chat, donc...
C'est sorti chez Vendouest, du coup. Je vais recommencer.
Oui, on recommence.
Sinon, en bouquin, on peut aussi conseiller les Cranios Monsters qui sont sortis chez Vendouest et écrits par Jean-Pierre Putters. Alors, je sais que ça doit plus être trop disponible parce qu'il y avait 3 exemplaires qui étaient sortis, mais il y a une compilation en un seul bouquin qui est sortie un peu plus tard et celle-là, elle doit être encore disponible. Donc, c'est vraiment des bouquins que je conseille. Et ça, je sais que c'est plus du tout disponible, mais si par hasard vous les trouvez à un prix relativement correct, il y avait les 101 nanars et le retour des 101 nanars qui étaient des très très bons bouquins que j'ai lus il y a une dizaine d'années. Et ça, pour le coup, je sais que c'est plus du tout dispo et que ça se vend super cher sur eBay, mais si vous arrivez par hasard à le trouver sur une quant ou autre, n'hésitez pas à foncer.
Je confirme, pour les Cranios Monsters, j'ai l'un des tomes, je crois que j'ai le deuxième tome, et c'est compliqué de trouver les autres. Bien, on va passer maintenant à quelque chose de peut-être plus sympathique que les mauvais films, à savoir vos activités liées aux comics. Alors, honneur au petit nouveau du podcast, Ben, où peut-on te retrouver? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelles sont tes activités liées à notre passion commune?
Ce que je fais dans la vie, c'est qu'essentiellement, je lis des comics, et ça, c'est plutôt cool. Sinon, j'évolue notamment dans 2 structures. En premier, Arcadia Graphic Studio, qui est une structure de création, avec notamment son magazine Forgotten Generation, qui existe depuis plusieurs années maintenant, et qui publie autant des rééditions de comics libres de droit du Golden Age, que des nouvelles, et surtout des bandes dessinées originales, avec notamment plusieurs choses. Steelman, qui est beaucoup connu dans le French comics, Drac Beryl, ou la reprise de Black Terror, le personnage du Golden Age que Dynamite avait utilisé à un moment, et donc maintenant il est repris également par Arcadia. Donc j'interviens là-dedans, mais j'interviens essentiellement aussi sur le site Top Comics, où je rédige de nombreux articles, des tops également, mais aussi des articles, des critiques, des points de vue, etc. C'est là où vous pouvez me retrouver, et voilà.
Merci beaucoup Ben. Bernie, veux-tu te représenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Toi qu'on surnomme la voix enrhumée du Nord, la voix avinée du Nord.
Ah bon, je ne savais pas qu'on m'appelait comme ça par contre.
Bah depuis ce soir, c'est comme ça qu'on va t'appeler.
Ah, c'est comme ça qu'on m'appelle, ok, bah écoute. Toujours membre, comme je le disais en mon début de podcast, de l'association qui organise le Roubaix Comics Festival. Donc on fait ça une fois par an et c'est plutôt cool. Ensuite, si vous voulez m'écouter avec ma voix avinée, du coup, vous pouvez me retrouver sur Comic City pour la partie VF. Et sinon, j'ai également une émission de radio avec des potes sur une radio qui s'appelle RPL. C'est une radio locale du Nord où on a une émission qui s'appelle l'Imaginarium où je fais des chroniques comics, cinéma, etc. Donc voilà.
Merci. Je vous mettrai les liens vers tout ça, évidemment, dans l'article qui accompagne les podcasts. Je vous mets toujours plein d'infos dans ces articles. N'hésitez pas à les consulter. Nous, sur Comics Office, on se retrouvera très bientôt pour le Comics Office Watching consacré à Joker. J'en ai un sur Avengers Endgame qu'on a tourné il y a quelques temps avec des amis qui demande beaucoup, beaucoup de montage, donc ça arrivera. Je sais que c'est longtemps après la sortie du film, voire même quelques temps après le Blu-ray, mais vous verrez, on a eu le temps de maturer un peu, de laisser maturer nos réflexions. Donc c'est vraiment une émission que, là, en la montant, je me rends compte que c'est une de mes préférées parmi toutes celles que j'ai tournées ces dernières années. Donc j'ai hâte de vous la présenter. Je vous parlerai très prochainement de nos autres projets pour le site. Pour l'instant, bon, on est un peu tous occupés. C'est pour ça qu'il y a les rubriques habituelles, ma sélection VF du mois et puis les projets à suivre. Par contre, le podcast principal de débat, on ne peut pas trop le faire en ce moment comme on est tous occupés dans nos coins, mais il revient très bientôt. Messieurs, merci. Je vous dis à tous à très bientôt et puis n'oubliez jamais. Philippe, on sait où tu te caches.
Philippe !
Fais pas le con.
Allez, salut tout le monde.
Salut.
Salut.
Oh, on a oublié quelque chose.
Ouais.
C'était les aventuriers du système solaire. Le réalisateur avait pris le pseudonyme Roy Thomas.
Ah ouais, c'est... Bon, tant pis, hein, pour le coup, ça va être compliqué de le caler. Hein.
Je vais faire comme si... Oh mince, on oublie de dire une info liée aux comics. Le réalisateur des aventures du système solaire, il avait comme pseudonyme Roy Thomas. Roy Thomas qui sera au Comic-Con. C'est vraiment des escrocs. Hein. Je sais pas si pour le coup il se référait à l'auteur de comics, mais ça m'a bien fait marrer. Oh, et puis tu sais quoi, mais on parle de super-héros là, mais on a complètement oublié de parler des extraits là, de Captain America. Le téléfilm des années 70 qui était sorti en film chez nous là, avec Captain America qui sauve une vieille dame qui s'est fait voler son sac et les extraits du Captain America tueur contre Spider-Man. On est vraiment des bras cassés quoi hein. Oh là 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 là. Tu m'entends Bernie, tu m'entends? Qu'est-ce que c'est? Là, lui. Mais non! Non! Non!
Espèce de capitaliste!